Bonjour, bienvenue sur le 11e spécial de Comic City, 11e déjà. Je suis avec Claire,
Bonjour.
Benny.
Ouais, il y a une hésitation là pour Claire. Hein. T'as pas eu envie de la donner en premier, hein. C'est marrant ça.
En cette belle journée de la femme.
Voilà, oui, très belle journée.
Ouais, on va dire
En
ça.
cette
Beaucoup
belle
de
nuit
monde
d'ailleurs,
avec Flo, ouais.
il fait bien nuit là par contre.
Ouais, en cette
Cette
soirée
belle
de la
journée, il fait
femme.
bien nuit, ouais. Cette soirée de la femme, voilà.
On a donc aussi Sam
Salut!
et Nono.
Bonjour à tous.
Version droguée.
Version droguée, ouais.
Il a pris des
Version
substances
anesthésiée.
pour pouvoir faire le
Licite.
spécial.
Bah voilà, oui, pour se mettre, pour faire son gonzo, comme on transmet.
Voilà.
Il
Comme
est dans
Spider
l'état de...
Jérusalem.
Dans les
Voilà, c'est
gencives,
ça.
il se les fait les injections.
Ah ouais,
Ouais,
moi je
ceci
suis un
dit,
gueudin.
on a bien eu une scène d'injection dans l'œil, cette fois-ci dans
Voilà.
la gencive, pourquoi pas. Car oui, vous l'aurez peut-être deviné, le
Ah
thème du
non, sans
spécial,
déconner.
c'est Transmétropolitane. La série
J'ai pas
s'est
lu celui-là.
achevée. La série s'est achevée en français il y a quelques mois.
Ouais, et en plus ils ont sorti donc le dernier en deux parties. Enfin, les deux derniers tomes sont plus réduits que les précédents, quoi.
Oui,
Cinq et
sachant qu'en
six.
fait le sixième tome a été comblé avec deux épisodes spéciaux assez longs, où en fait on avait des petites vignettes sur les premières années de Spider dans la vie.
D'accord.
Donc c'est un peu un résumé de ce qu'il y a dans les premiers tomes, en version encore plus déjantée.
Mais justement, le sujet, c'est pas le dernier tome, mais les deux premiers en fait. Car la série est assez longue, il y a énormément de choses à dire sur la série, et donc on a
Oh
préféré
oui.
couper ça en deux, de manière à ce que ça fasse pas, ce soit pas un peu trop survolé finalement. Donc on va s'intéresser aux deux premiers tomes, qui sont les deux premières années de la série. La série ayant duré 5 ans et s'étant déroulée quasiment en temps réel en fait, tout au
Ah
long de la
oui,
série.
hein.
Donc voilà, les années 1 et 2 de Transmet. N'y voyez pas de rapport avec Batman.
Ouais, donc les numéros 1 à 24.
Voilà.
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 Sachant que la première année et la deuxième année sont très différentes en termes de thématiques.
Oui.
Complètement. Bah d'ailleurs, justement, cette série est démarrée aux États-Unis sous le label Helix, qui était un sous-label de DC, comme on avait Milestone, comme on avait Minx, entre autres,
Voilà.
ou encore Vertigo, bien sûr.
Qui ont pratiquement bah, qui ont tous disparu hein, en fait aujourd'hui, puisque DC a éliminé un peu tout ça et a regroupé tout ça sous le label DC en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce label Helix a commencé en 96.
Et
Il a
a disparu
laissé...
en 97.
Voilà, en 98 en fait. Puisqu'il y a eu
Voilà.
un ou graphic novel qui est sorti en 98. Mais c'est
Voilà.
vrai, bon, il s'est arrêté en
Ça, ça, ça,
97.
fera, ça restera comme l'un des plus courts de l'histoire
Ah, je sais
de
pas
DC.
s'il y a pas... De DC, ouais, je sais pas s'il y a pas eu plus court quand même.
Ouais,
Mais...
ouais. Il y en a qui ont duré quelques épisodes, c'est vrai, de labels qui ont disparu après leur première
Bah...
sollicitation.
Quoique
Par un certain Rob Liefeld notamment.
qui revient, on l'a appris cette semaine,
Ouais.
sur un projet par Robert Kirkman.
Avec Kirkman.
Ouais.
Voilà. Comme je l'ai dit, le premier sera en retard de 6 mois et le deuxième sera annulé. Après, tu le reprends. Je suis salaud, mais moi, le mec a sa réputation.
Oui, c'est très proche de ça, exactement. Voire même, on
J'ai
commencera
entendu
peut-être
que...
à l'épisode 2, comme c'est déjà arrivé dans certaines séries, vu qu'il a déjà sauté des épisodes. Peut-être qu'on peut s'attendre à une série qui commence au numéro 2. Et on aura
Sinon,
juste un numéro
vous
2.
pourrez lui dire tout ça, il sera peut-être là au LCF, donc
Ah, magnifique.
Est-ce
J'irai lui demander une dédicace, je lui apporterai un modèle pour qu'il se plante pas.
Donc la série était censée sortir il y a 6 mois. Vous en êtes à la combienième page de l'épisode 0?
Ah, il y avait une série à faire, j'étais pas au courant.
Et vous avez vu comment ça a doucement glissé vers Rob
Vers Rob
Liefeld.
Liefeld, oui, sachant que c'est lui bien sûr qui a écrit Transmet. Qui a
Mais
écrit
non.
Transmet? C'est pas Rob Liefeld, c'est Warren
Warren
Ellis.
Ellis, ouais.
Voilà. Et c'est surtout pas lui
Le
qui a
génie
dessiné.
du lait, ma part.
Oui, bon, Sam est donc franchement objectif, hein.
Voilà. Bah, pour moi, c'est sa meilleure série. Franchement, de très
Ah
loin.
mais alors ça je suis d'accord. Tu vois? Là je suis d'accord avec toi, c'est peut-être bien sa meilleure série. Mais tout ce que j'ai lu de lui ne m'a pas plu. Donc de toute façon, ça me dérange pas de dire que c'est sa meilleure série, tu
En fait, ça dépend un peu de ce qu'il écrit, Warren Ellis. C'est-à-dire quand il est sur des trucs indépendants, là il a tendance à se lâcher et c'est bien meilleur. Et quand il écrit Marvel, ben ça donne
Oh oui, je
Astonishing.
suis d'accord, non mais je suis d'accord. C'est Thunderbolts par exemple, beaucoup ont dit que c'était génial, moi j'ai trouvé ça sympa
Ben
sans
moi,
plus, quoi.
non moi j'ai adoré cet Thunderbolt, mais ces X-Men sont bof.
Ça
Voilà,
vaut
pour
pas
moi,
les ça vaut pas l'X-Men de Morrison.
voilà, ni ce doigt. Je suis compris enfin.
Au dessin, nous avons aussi Derek Robertson.
Voilà.
Qui est coutume la... du fait de dessiner des séries qui changent d'éditeur, quand même. Mm. Parce que passer de Helix à Vertigo et passer de... alors, c'était Dynamite...
C'était de DC.
Wildstorm et Dynamite.
Voilà, de Wildstorm et Dynamite pour The Boys. Mm-hmm. Il est quand même... il, ah, à chaque fois, voilà.
Ouais, il a même travaillé chez Malibu, mm-hmm. à l'époque.
Sur un certain Man.
Donc, ouais, Malibu, le label racheté par Marvel et qui s'est vite cassé la gueule.
Par les communistes. Racheté par les communistes.
Ouais.
Alors, Malibu, là, je cherche...
Non. Oh là là. Oh putain.
J'ai pas entendu.
Je sais pas comment réagir à ça.
Non, en fait, mais ne la roussez pas, c'est pas grave.
J'envisage le suicide.
Ouais, j'hésite entre les pleurs ou le suicide, là.
D'accord, donc j'ai bien fait de pas l'entendre.
Ah ouais, non, là, vraiment pas.
Derek Robertson, ouais. En fait, qui est présent sur les 24 premiers épisodes de manière régulière, et en fait, sur le reste de la série, son encreur, Rodney Ramos, prend vraiment le dessus. C'est bien qu'il y a des épisodes qui sont en fait signés directement par Rodney Ramos, et Derek Robertson ne revient que pour quelques épisodes, en fait, notamment le dernier.
Ouais, il faisait juste des layouts.
Voilà, j'ai l'impression que ça allait un peu trop vite pour lui, donc...
Bon. Ouais, de toute façon, il le dit clairement, il a adoré faire la série, mais il était aussi content que ça s'arrête parce qu'il en avait marre d'être sous les délais constants. Quoi.
Bah, le problème de la série, c'est qu'il y avait tellement de trucs à dessiner, il y avait tellement de concepts, de qu'effectivement, je comprends que c'était difficile à dessiner. Parce qu'il y a, franchement, chaque page, c'est un déluge constant d'idées, de concepts.
Les pages sont très chargées.
Ouais.
Ah, donc c'est, et en même temps, pas surchargé.
Non.
Mais c'est vraiment dans l'esprit de la série d'être extrêmement riche, et voilà.
À savoir que pour les deux, Ellis et Robertson, c'était pas leur première collaboration. Ils avaient travaillé ensemble sur un spécial Solar Man of the Atom Special. Sorti chez Valiant ou Acclaim, je sais plus qui c'était à cette époque. Puisque Valiant avait été racheté par Acclaim ensuite. Donc voilà, donc ils avaient déjà bossé ensemble, ils se connaissaient un petit peu. Ce qui peut expliquer aussi que le tandem marche aussi bien.
Ah bah oui.
Sauf que je crois qu'ils ont plus rebossé ensemble hein, depuis Transmet.
Bah, pas que je sache, non.
Non. En même temps, ouais, ça fait quand même un moment, hein, parce que la série s'est terminée en 2002, on est en 2011.
Ça fait... Bientôt les 10 ans de la fin.
Voilà, bah, l'année prochaine.
Donc je vais retarder la sortie du podcast pour le sortir pour les 10 ans, je pense.
Voilà, oui, voilà. Ça sert à rien qu'on l'enregistre maintenant, en fait.
Si, c'est pour être sûr qu'il soit monté à temps.
Voilà. Je laisse le délai derrière pour arriver à vivre un peu.
Avant de démarrer sur l'histoire à proprement parler, est-ce que quelqu'un ne connaissait pas la série avant ce spécial?
Moi, je ne l'avais pas lu. Mm-hmm. Je connaissais de nom, beaucoup de gens m'en avaient parlé, j'ai une amie qui est très très fan de Transmet, qui m'avait toujours dit, mais si, lis-le, etc., c'est génial, tu vas aimer et tout. Et ça a été l'occasion pour ce spécial de le lire, du coup.
D'accord.
Donc quoi, c'est vraiment la journée de la femme, hein, aujourd'hui. C'est femme de bon goût.
Ben moi, Transmet, ça fait partie des rares séries que j'avais lues il y a très longtemps. Quand j'étais au Pays de Galles, et je me rappelle plus du tout en fait jusqu'où j'avais lu, mais tout ce que je me rappelais, c'est que j'avais bien aimé cette série. Donc
je
du
crois
coup
que,
là,
je crois que tu avais lu jusqu'à la fin de l'année 1.
Ouais.
Car oui, les bibliothèques du Pays de Galles sont bien fournies quand même.
Ouais.
Du transmétropolitain.
C'est bien le Pays de Galles.
Alors, on pourrait reparler de ça pendant 3 heures et t'en prouver que non, mais.
Les bibliothèques du Pays de Galles sont bien.
Voilà. Oui, elles sont très bien.
J'ai appris récemment que la bibliothèque de Roubaix également proposait des comics. Je vais y aller.
Mais c'est un très bon moyen pour découvrir le comics. Hein.
Ben oui, carrément.
À peu près, juste le prix d'une carte de bibliothèque. Mm. C'est quand même relativement agréable pour se faire un avis sur pas mal de séries.
Ben ouais.
Et surtout, légalement.
C'est
et puis dans un et puis d'un meilleur confort, bien sûr, puisque l'objet en main. Reportez-vous au débat sur le digital contre le papier. C'est pour tous les fans des renvois.
Oui, voilà.
C'est ce que j'allais dire. Ouais.
On pense à vous.
Surtout qu'il y en a des renvois dans Transmet, en plus.
Oui. Et toi, Benny, tu connaissais la série un petit peu avant son podcast?
Oui. J'avais lu il y a quelques mois.
Ça veut tout dire. Oh bah oui, malheureusement, je la connaissais, oui.
Oui, je la connaissais déjà de nom, de réputation, et j'avais lu le premier arc il y a plusieurs mois déjà. Et j'avais pas particulièrement accroché, enfin en tout cas j'avais pas accroché au point de lire la suite jusqu'à maintenant, puisque j'ai dû lire les 24 du coup. les 20 qui restaient quoi en fait, on va dire.
Je suis un bourreau, j'avoue. Oui. Je t'oblige à lire des trucs.
Oui.
Ah oui.
Et moi je souhaite derrière.
Lis plus vite.
Je te dis que c'est génial. Allez. Et dans un réflexe pavlovien, il a fini par être.
Disons que tu vois, c'est pas la série que j'ai envie de continuer à lire tout de suite quoi. Il y a tellement de trucs que j'ai préféré, que j'aimerais continuer, que ça pourrait vraiment attendre longtemps avant de lire la suite. Voilà. C'est donc non, j'ai pas particulièrement accroché à transmettre.
Donc vous l'aurez compris.
Pour diverses raisons.
Il va y avoir du fight.
Ouais. Voilà. Pour une fois, on n'est pas tous d'accord.
Bah, c'est parce qu'on peut pas ne pas être d'accord ou pas d'accord sur les goûts des gens quoi. C'est comme ça.
Mais non, mais c'est bien justement par rapport à certains spéciaux qu'on a pu faire. Voilà. On était tous d'accord sur c'est vachement bien, nanana. Là, voilà. On n'est pas tous d'accord, donc c'est bien.
Donc on va voir les différents thèmes qu'on va aborder pour justement exprimer pourquoi on a aimé, pas aimé.
Les zones de désaccord.
Eh ben déjà, on va commencer peut-être par parler de l'histoire, tout simplement.
Oui.
De quoi parle Transmétropolitane?
Bah, alors, déjà, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est un comics cyberpunk. Donc, qu'est-ce que le cyberpunk, déjà, quand même?
Bah, le cyberpunk, c'est-à-dire que ça se passe dans un univers futuriste. Ça se passe dans les États-Unis, mais il n'y a pas d'année précise, il me semble.
Non, mais c'est dans un futur.
Voilà, c'est dans un futur un peu apocalyptique. Parce que quand tu parles
du 20e siècle, on sent que le 20e siècle, c'était pas hier, quoi.
Ouais. Donc, mais ça se passe dans notre continuité, c'est-à-dire qu'il y a des références à Elvis, des choses comme ça. Ça se passe dans notre continuité. Et punk, parce que c'est complètement déjanté, quoi. C'est trash. C'est l'esprit un peu punk, on va dire.
Ouais.
Pas qu'un peu. Hein.
Avec la robotisation.
On sent l'auteur anglais, quoi.
En fait, j'ai beaucoup de mal avec ce terme parce que moi, dès que je pense au cyberpunk, je pense à des titres comme à des mangas en fait comme Akira ou Gum qui sont vraiment là, vraiment cyberpunk. Hein. Là, c'est.
Oui. Bah, ils sont plus même cyber que punk. J'ai envie de te dire.
Bah, non, mais il y a cet esprit un peu nihiliste qui est présent durant toute la série.
Ouais, Transmettre, il y a plus le côté société dégradante qu'il y a, à mon sens, dans ce que tu citais. Alors, qu'est-ce que tu citais, Akira?
Akira ou Gun.
Ouais, je trouve quand même que, disons que dans les mangas, il y a quand même un futur généralement. Je dis généralement, hein, parce que pas dans tous les mangas, mais il y a quand même un futur qui semble plus joyeux ou en tout cas plus prometteur que dans les comics. Généralement, le futur est toujours apocalyptique dans les comics.
Bah, enfin, le futur d'Akira, c'est quand même un futur assez apocalyptique.
Oui, quand même, mais il y a un espoir, tu vois, il reste toujours un espoir, je trouve, dans les mangas, que dans les comics, quel que soit le futur dans les comics, les trois quarts du temps, généralement, c'est un futur apocalyptique.
On y reviendra tout à l'heure, mais dans Transmettre, il y a un espoir aussi, quoi.
Mm-hmm. Ouais,
il y a de l'espoir dans Transmettre.
Oui. Ouais, il est bien caché, mais il y en a un, ouais.
Ouais. Enfin, c'est quand même assez désespérant, quand même, parce que tu te rends compte que
moi, je vois que ça désespérant.
Ouais, enfin, la société a quand même pris un sacré coup dans le nez, quoi.
Je sais pas, moi, je trouve que ça décrit, honnêtement, je trouve que ça décrit parfaitement la société d'aujourd'hui.
Ouais.
Dans un futur, mais c'est, enfin, ce dont il parle dans un futur post-apocalyptique cyberpunk ou je sais pas quoi, c'est exactement les travers de notre société actuelle.
Oui, poussé à l'extrême, ouais.
Bah je sais pas moi, franchement, quand on en parle, c'est vrai que il y a 15 ans ça pouvait paraître cyberpunk. Aujourd'hui
un peu moins.
Ouais,
un peu moins, ouais, parce que c'est quand même un peu la société vers laquelle on se dirige.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas aimé, parce que je l'aurais lu il y a 15 ans, je t'aurais peut-être dit oui effectivement c'est formidable. Là je le lis maintenant, j'ai l'impression de lire un truc où Anneli s'enfonce un peu des portes ouvertes, quoi.
Peut-être que tu ne l'as pas assez remis dans le contexte.
Ouais. Mais enfin, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. C'est une œuvre. C'est un peu dommage, tu vois, qu'il y ait une œuvre que, si tu la découvres 10 ans avant, ça va te plaire plus que si tu la découvres maintenant. Enfin, tu vois, c'est une œuvre un peu périssable, quoi.
Moi, je l'ai découverte en 2004, tu vois. Même aujourd'hui, enfin, je trouve que c'est une œuvre, finalement, qui n'est pas intemporelle et qui, au contraire, je trouve que la lire aujourd'hui,
enfin,
oui, qui est intemporelle, et je trouve que je dis que des conneries moi ce soir. Hein.
Ouais. Je trouve c'est la journée de la femme.
Ouais, ça. Voilà, c'est ça.
Non, bah, c'est tellement différent que d'habitude.
Ah, oulala, si tu savais. Et donc oui, non, je trouve qu'effectivement La lire aujourd'hui, ça te permet de faire des renvois à plein de choses que tu vis dans le réel, ne serait-ce que les flux d'informations. Quand il a créé ça, c'était tout juste le début où ça existait à peine.
C'était la préhistoire.
Voilà. Aujourd'hui, les flux RSS, c'est des choses que on utilise tous les jours.
Oui. Et c'est pour ça. Mais oui, mais c'est justement pour ça, tu vois. Il y a 10 ans, j'aurais dit ah tiens, enfin il y a 10 ans, il y a 15 ans, j'aurais dit ah putain, c'est une bonne idée, il y a un truc intéressant derrière. Là maintenant, ça me fait penser simplement au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est chiant quoi, le quotidien, tu vois.
Et je trouve que justement, l'œuvre en est d'autant plus intéressante parce que t'as l'impression qu'il est en train de critiquer ce qu'on vit actuellement. Enfin, t'as l'impression que c'est quelqu'un même qui aurait pu l'écrire aujourd'hui, et même si ça avait été écrit aujourd'hui, moi ça m'aurait pas empêché de trouver ça intéressant comme œuvre.
Mais je pense que tu vois, tu peux avoir deux lectures, quoi. La lecture remise dans le contexte, et puis la lecture avec ce que tu sais de la société actuelle, et voir ça sous un autre angle.
Que se passe-t-il quand la science réelle rattrape la science-fiction ?
Bon, on va peut-être parler vraiment de l'histoire cette fois-ci.
Voilà.
Quand même raconter de quoi ça parle, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Transmet.
Donc en fait, l'histoire, c'est celle de Spider Jérusalem, qui est sans doute le journaliste le plus cinglé qu'on ait jamais vu, qui après 5 ans à vivre comme un ermite au fin fond de la montagne revient dans la ville.
À cheval.
Voilà. tu me la refais à chaque fois cette blague.
Avec un lance-roquette.
Voilà.
Aussi, et ouais. Il descend pas vraiment à cheval, il descend en voiture, mais. Ouais.
Voilà. Mais il a vraiment un lance-roquette, hein, ce n'est même pas une blague en plus.
Il explose un bar quand il passe. Il dit c'est mon seul contact avec la civilisation. 3 secondes plus tard, il explose le bar en disant si je dois en chier, tout le monde va en chier.
C'est ouais. Ça.
Puis il a vu qu'il les a jamais aimés, surtout.
Alors, on voit déjà, en fait, dès le premier épisode, on voit qu'il est complètement barré, quoi.
Voilà.
Alors, oui,
tout le monde.
C'est un gonzo journaliste, au fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le mec, non seulement quand il traite un sujet, va se mettre à fond dedans au point d'en devenir un acteur principal. Par exemple, va y avoir le thème de l'élection du nouveau président, il va limite faire partie de la campagne, indirectement. Et surtout, il est complètement drogué, quoi. C'est aussi le propre des gonzos, c'est que bien souvent, ils utilisent pas mal de substances plus ou moins particulières. Et
rappelons-le, la drogue, c'est mal.
La drogue, c'est mal.
C'est pas bien.
Justement, Frédéric Becbédé, que j'adore, non, je plaisante, hein, c'est une blague, c'est de l'humour, mais Frédéric Becbédé, par contre, je crois, avait fait avait écrit un bouquin sous drogue.
Oui.
Pour voir ce que c'était.
Un seul, t'es sûr?
Ah oui, non, un seul avoué.
Déclaré.
Voilà, ouais. Officiellement reconnu par l'auteur, un seul. Après, les autres, je ne sais pas, je ne suis pas allé vérifier, mais sans doute.
Mais c'est vrai que quand tu dis qu'il s'est investi vraiment dans ces sujets, qu'il va prendre part, en fait, c'est-à-dire qu'il va prendre parti, on peut dire oui et non. Oui, parce que je me rappelle d'une vignette, justement, qui est à la fin du tome, où il explique que dans la première année, il a couvert une émeute entre les perverses du corps qui veulent avoir le droit de faire absolument ce qu'ils veulent de leur corps, et les puristes qui disent attention, le corps est sacré. Et en fait, il prend part à l'émeute pour les perverses, pour la liberté de faire ce qu'on veut de son corps. Et au final, les mecs le tatouent et l'acceptent comme l'un des leurs. Ouais. Alors que quand on voit en fait le tome 2 de la série sur qui est vraiment centré sur l'élection présidentielle, on voit que le mec veut battre en fait l'un des candidats qui s'appelle la bête, mais en même temps ne peut pas se déclarer pour l'autre. En tant que journaliste, il ne peut absolument pas prendre parti.
Oui, donc, oui, d'accord. Vraiment, enfin, tu sens, limite, tu sens quand même oui, ça.
Mais c'est Spider Jérusalem, quoi. C'est tout dans le paradoxe. De toute
c'est, façon. Puis, oui. Oui, c'est dans l'art de la manipulation de dire les choses sans les dire, mais de faire comprendre. Enfin, c'est le pouvoir des mots.
Oui, bah, c'est un thème aussi qui est important là-dedans, mais. Un petit peu différemment de ce qu'il y avait dans The Unwritten, par exemple. C'est effectivement, oui, le pouvoir des mots, de ce qu'il écrit, de quelle manière ça va impacter la société.
Ouais. Mais lui-même admet en fait que ce qu'il écrit n'a pas le pouvoir de changer les choses. Il le dit lui-même. Tout ce qu'il
non,
peut
mais
faire,
les influences, c'est...
Pointer, c'est vraiment pointer le doigt sur ce qui, pour lui, ne fonctionne pas dans la société, dire aux gens, putain, mais bougez-vous le cul.
Ouais, ouais. Que quelqu'un d'autre s'en charge.
Voilà. Bah, non, mais que la société s'en charge, que les gens s'en chargent eux-mêmes.
En fait, il est la voix des laissés pour compte, en gros, quoi. Enfin, je sais pas comment c'est traduit en français, mais c'est The News Come en anglais. Donc voilà, il est vraiment vu comme ça, quoi.
Mm-hmm. Peut-être repartir sur le résumé de l'intrigue. Donc il revient en ville.
Dans la...
Non, mais ça va être difficile, là.
Ah ouais, non, mais ouais.
Ça fait 3 fois que je veux faire l'histoire, c'est pas possible.
il revient dans la ville parce que bah il a pas le choix, c'est-à-dire qu'il a plus un rond quand la série commence. Et son éditeur, puisqu'il écrivait des livres avant de, enfin des reportages qui étaient compilés en un livre, lui rappelle bien gentiment qu'il a encore 2 livres à lui filer. Ça fait 5 ans qu'il les attend, donc il serait peut-être temps qu'il se bouge.
C'est ça.
Et comme s'il va avoir un sujet d'écriture, ben il faut qu'il aille là où est l'info. Donc il revient en ville et ben il va très vite.
Le regrette.
Malgré lui, ouais, parce qu'il va redevenir célèbre, ce qu'il voulait absolument pas. Puisque son premier reportage, c'est les émeutes des transités.
Oui, qui sont des mutants, quoi.
Oui, c'est
voilà,
ça.
Des mecs qui se sont injectés de l'ADN alien pour devenir à moitié humain, moitié alien. Et devenir
ouais, des mutants volontaires.
Peu à peu des aliens totalement, quoi. Mais,
Voilà. Sachant que, en fait, ce qui est expliqué, c'est que personne n'a vraiment réussi le transit complètement. Donc, il y a que.
C'est un petit peu des marginaux, quoi.
Mm.
Dans le sens où ils rejettent un petit peu la société dans laquelle ils vivent et ils l'expriment comme ça, quoi.
La plupart des personnes qu'on va croiser dans la vie de Spider, c'est des marginaux, hein.
Ouais.
Donc,
C'est son environnement vraiment propre. C'est ce qui l'attire, en fait, hein, vraiment.
Ouais.
Lui-même est un marginal, de toute façon. On voit bien avec sa façon de se mettre en condition pour écrire, sa façon de vouloir vivre en ermite et de ne penser qu'à une chose, c'est retourner vivre dans sa montagne où il était tranquille. Mm-hmm. Voilà, lui aussi est totalement un marginal. Malheureusement, c'est un marginal célèbre. Enfin, en tout cas, malheureusement pour lui, quoi.
Ouais.
Quand on regarde un peu la série, c'est en ce qu'on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une personne normale dans toute la ville, dans les millions et les millions de gens qu'il y a, est-ce qu'il y a une seule personne normale? Ouais. Enfin, normale selon nos critères, parce que...
Il y a une personne normale, celle qui revient du 20e siècle.
Ah, les ressuscités.
Mmh. Ouais.
Mais quand ils arrivent, en fait, ils sont tellement choqués, ouais, parce que c'est une des histoires. Quand ils arrivent, quand ils sont ressuscités et régénérés, le choc de la société du futur est tellement grand qu'ils restent en état quasi catatonique.
On la revoit un petit peu vers la fin de la deuxième année, déjà elle est beaucoup mieux.
Et à la fin de la série, on la revoit aussi.
D'accord.
Mais justement, enfin. Dans cette société-là, être normal, finalement, il n'y a pas vraiment de normalité, puisque c'est vraiment la liberté de chacun de faire ce qu'il veut. Enfin, c'est vraiment un point... Il n'y a pas de personnage moyen, quoi. C'est chaque personne est extrême dans tout, dans la religion, dans la sexualité, dans ce qu'il mange, dans... Enfin, c'est vraiment...
Ou ce qu'il ne mange pas, justement.
Oui, voilà.
Donc, il y en a qui se font...
La religion du bol d'air.
Il y en a qui se font enlever les besoins nutritifs.
Oui.
Il y en a qui se font carrément enlever leur corps.
Téléchargés.
Ouais, qui se font téléchargés. Enfin, c'est vraiment une société où il y a le libre choix tout le temps. Et en fait, on tient pas compte de ce que peuvent penser les autres. C'est vraiment une société de l'individu, du libre choix de chacun de faire ce qu'il veut.
Warren Ellis nous présente à la fois un futur totalement utopique et totalement dystopique à la fois. C'est là que c'est énorme. C'est que justement, cette grosse utopie de la liberté pour tous, elle est atteinte dans cette société futuriste. Mmh. Mais ça en provoque aussi sa dystopie, puisque chacun fait ce qu'il veut sans penser forcément aux autres.
Oui.
Mmh, tout à fait.
Et donc, c'est à l'image de Spider Jérusalem, la société que propose Warren Ellis dans Transmétropolitane est totalement paradoxale. Je vous ai tué d'un coup, là.
Ouais, non,
mais dès que tu as employé le terme dystopie, là, tu m'as cloué.
Non, mais le truc aussi, c'est que, au final, oui, tout le monde fait ce qu'il veut, mais néanmoins, on se rend vite compte que, celui qu'on a surnommé le sourire en français, je crois que c'est The Smiler, je crois.
The Smiler, ouais.
Finalement, lui, tu te rends bien compte que y a de fortes chances que, malgré le fait que les élections soient libres, que d'une manière ou d'une autre il va passer
après,
au pouvoir, quoi.
Non, mais après là c'est par rapport à la manipulation au pouvoir des médias. C'est différent de chaque personne qui vit sa vie comme il veut, tu vois. Après c'est vrai qu'il y a tout un lion, on va dire, dans cette société qui est tout ce qui est médias, audiovisuel, c'est vraiment de l'agression tout le temps, quoi. Et je trouve
Gary
Robertson a vachement bien rendu ça dans les images. Ils sont vraiment, y a trop de choses dans ces images et tu te sens agressé finalement, tout comme ils sont agressés tout le temps dans cette société.
Ouais, c'est totalement ça. De toute façon, il suffit d'allumer la télé ou de sortir dans la rue. Déjà aujourd'hui pour se sentir agressé, donc vivre dans une société telle quelle, ça devenait fou.
Justement, est-ce qu'il y a vraiment un libre arbitre des gens puisque peut-être que si justement la société n'était pas comme ça, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus.
Ah bah oui. Mais justement, tout l'épisode, quand ils regardent la télévision pendant une journée entière, je pense que ça répond à la question.
Je crois qu'on devrait mieux aborder, on devrait aborder, je pense, le...
L'épisode par volume, épisode, ouais, parce que
par volume la série.
Non, mais oui, je pense que voilà, il faut vraiment découper l'année 1 et l'année 2.
Oui, parce que c'est très, très différent.
Elles sont vraiment totalement différentes.
Ouais. L'année 1, c'est des récits assez courts, assez thématiques, portés sur un thème, alors que l'année 2 est quasiment entièrement centré sur l'élection.
Bah, déjà, là, on a une grosse différence entre l'année 1 et l'année 2, c'est que dans l'année 1, on a seulement deux arcs. Mmh. Un premier arc en trois parties, un arc pour clôturer la première année en trois parties, le reste, ce sont des stand-alone.
Voilà.
Et dans l'année 2, nous avons uniquement deux gros arcs de six parties chacune. Mmh. Chacun, plutôt.
D'ailleurs, donc, l'année 2 est quand même plus rapide à lire que l'année 1.
Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et en même temps, bah, on
avait parlé
un petit peu avant, c'est vrai que, par exemple, j'ai préféré l'année 1 à l'année 2. Toi aussi, Nono ?
Ouais, pareil.
Moi aussi, je préférais l'année 1.
Ah, ouais. Moi, j'ai préféré l'année 2.
Ce qui m'a pas empêché d'aimer l'année 2 aussi.
Oui, bien sûr.
Oui, mais par contre, l'année 2, je trouve que justement, il se passe moins de choses, quoi. Il y a moins de... Il y a une certaine lenteur dans l'année 2, quand même. Hein.
Ouais,
oui, c'est exprès.
Oui, mais tu sens qu'il est en train de placer des choses pour continuer sur la suite, en fait. Enfin, moi, je l'ai vraiment senti comme ça.
Ouais.
Que l'année 1, c'était plus je présente les choses, je présente le contexte, la vie et les persos. Et que finalement, dans l'année 2, il s'est dit, ok, tout est posé, donc maintenant, on va partir sur un truc un peu plus gros.
Oui, bah, la grosse différence...
Il y a l'élection, et donc comment se déroule l'élection au sein des partis, et comment Spider va la couvrir. Mais il y a aussi comment la société perçoit l'élection. Et comment ça devient complètement cinglé à un moment... complètement barré et on est vraiment dans une espèce de folie électorale sans précédent, donc qui nous rappelle certaines sœurs françaises.
Ce que j'ai préféré dans l'année 1, c'est que effectivement ce sont des histoires très courtes, voire des stand-alone pour la majorité des épisodes.
Mm-hmm. Exactement, il y a un thème.
Ça nous présente complètement l'univers, ce futur apocalyptique, en fait.
Tout à fait.
Et chaque épisode est centré sur un thème. Le thème de la religion, le thème de la télé, sur le thème des modifications corporelles, etc.
Les ressuscités,
Et du coup, on rentre, je trouve, plus facilement dans le monde de Spider Jérusalem, plutôt que dans l'année 2, où on suit des personnages tout au long des 24, des 12 épisodes.
Justement, ouais. D'ailleurs, sur le premier arc, j'avais eu du mal à rentrer dans cet univers, parce que on n'avait pas encore eu les épisodes par thème. Qui viennent ensuite. Et dans le premier arc, tu sais, je crois que c'est en trois parties ou en quatre, je sais plus.
En trois,
quand il arrive comme ça, tu te dis, mais attends, mais pourquoi le mec tire au lance-roquettes? Qu'est-ce que c'est que cette ville avec ses mutants?
Spider Jérusalem, tu redécouvres la ville, parce que lui, il l'avait oublié et elle a changé en 5 ans. Tel lui, tu redécouvres la ville, il se pose des questions, il se demande un petit peu ce que c'est, il se rappelle de certains trucs qui t'expliquent vaguement, mais il redécouvre cette société... urbaine totalement, même ultra urbaine, parce que vu la taille de la ville et tout ce qu'il y a dedans, et donc tu es largué comme lui, quoi.
Dès qu'il arrive, en fait, dès qu'il se retrouve dans les premiers embouteillages, il pète un plomb dès le début. On voit que son passage dans la montagne, ses 5 années dans la montagne, on sait pas comment il était avant de partir. On le devine, mais on sait pas du tout comment il était avant ses 5 ans. Et on voit que ces 5 ans dans la montagne l'ont pas arrangé du tout.
Mais justement, il y a aucun de vous qui au début l'a trouvé vachement antipathique.
Non. Moi je l'ai adoré dès la première ligne.
Ah ouais, moi aussi je l'ai adoré. Moi j'adore Spider.
Mais le personnage est antipathique complètement, mais c'est volontaire.
Il est pas antipathique, franchement.
Attends, il gueule sur tout le monde, il crache sur tout et tout.
Il est
tellement antipathique qu'il est attachant, c'est justement
Honnêtement, au début, enfin sur les premiers épisodes, après j'ai compris le personnage, mais sur les premiers épisodes, je me suis dit, mais c'est qui ce connard?
Mais c'est un connard.
Je me suis dit, mais c'est qui ce connard, sérieusement?
Il
tire au lance-roquette, machin et tout. Enfin, je me dis, mais il est fou. Il est fou. Il va tirer au lance-roquette sur des mecs. Je veux dire, même s'ils l'ont emmerdé, de là à aller buter au lance-roquette, tu sais, je me dis, mais c'est qui ce connard, quoi?
Non, moi, ça m'a pas dérangé, parce que c'est vraiment dans l'esprit Warren Ellis, des personnages créés, ces personnages sont quasiment tout le temps comme ça.
Je veux dire, moi, honnêtement, je me suis énormément marré en lisant le premier la première année, quoi. Je veux dire, Spider, je rigolais mais tout le temps à ce qu'il racontait, enfin.
Moi, je suis plus sensible à un humour comme Preacher de Garth Ennis, par exemple. Garth Ennis dans Preacher, oui, ça me fait mourir de rire. Mais là,
non, moi beaucoup moins justement.
Ouais, ben moi justement, là, Transmet...
Eh bien, c'est parce qu'ils viennent de deux régions d'Angleterre différentes, où l'humour n'est pas le même.
Ouais, je pense que c'est...
L'humour qui a dérivé au XVIIe siècle suite à des... Non, je déconne.
Non, mais il vient pas d'Angleterre, il est irlandais, je crois, Warren Ellis. Pas Warren Ellis, Garth Ennis.
Je suis désolé, hein, c'est le royaume d'Angleterre.
Ouais, bon. Oui, d'accord. Hein, mais oui. Je veux dire...
Tu vas pas me faire chier avec des petits détails comme ça.
Warren Ellis, je sais pas s'il est irlandais, je sais pas s'il est écossais.
Il est écossais. Non, il est anglais.
Ah, il est anglais.
D'accord. Ouais. C'est Morrison et Miller qui sont écossais.
Ouais.
D'accord. Ben alors visiblement, je préfère de tous les Irlandais. D'ailleurs, aller en Irlande, c'est très bien. Je suis allé à Dublin il y a quelques années. C'est très, très bien.
Alors, suivant les scénaristes, il a fait son classement. Donc il y a les Anglais, il y a les Écossais, les Irlandais.
Voilà.
Bon, tout ça la série. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur la ville, c'est qu'il y a un épisode qui est centré justement sur les transformations qu'on est la ville, comment c'est un organisme vraiment vivant, où t'as des parties entières de la ville qui disparaissent quasiment tous les jours, qui se reconstruisent en permanence, donc ça, c'est vraiment un truc qui change, mais tout le temps, ça ne s'arrête jamais.
Bah, c'est un peu comme chez nous, hein, aujourd'hui.
Ouais.
Et les réserves aussi. Enfin, le côté bah
là, on revient,
dans une ville, voilà, c'est très urbain et il y a des endroits qu'ils ont gardé intacts, hein, vraiment. Et c'est des réserves qui sont obligées d'être, mais vraiment nettoyées, scannées et tout avant de rentrer dedans. Voilà. Pour parce que ils sont trop radioactifs aujourd'hui, parce que ils prennent du anti-cancer pour pouvoir fumer, parce que enfin
modification génétique.
Ouais, c'est vraiment
des trucs. Voilà.
C'est un petit peu à l'image des réserves indiennes aujourd'hui, hein.
Mmh. Oui. Mais sachant que, en fait, l'une des idées vraiment géniales dans les réserves, c'est que ça conserve autant les cultures du passé, et en même temps, t'as une réserve qui est uniquement centrée sur l'avenir. Mmh. C'est celle qui est vraiment, on teste l'avenir avant qu'il arrive pour éviter que ça merde.
Oui, c'est ça.
Voilà, on teste les limites de l'humanité, on voit des mecs qui font des expériences hallucinantes sur leur propre corps, sur les limites de vraiment ce qui est possible de faire, de comment on peut se transformer. Et voilà, sachant que eux critiquent ce qu'ils appellent les échappatoires comme les cumulus, c'est-à-dire se débarrasser de son corps pour intégrer sa personnalité dans un million de micro-robots et il reste plus que l'esprit et on est quasiment immortel. Ils disent eux non, ça c'est fuir en fait.
Tout à fait, ouais. Bah d'ailleurs, c'est vu comme un suicide par Shannon. Ah. Donc
justement, on n'a pas parlé encore des personnages secondaires de l'histoire.
Parce qu'on a parlé de Spider.
Voilà, il a deux assistantes, une la première année qui s'en va et puis
qui revient,
qui reviendra plus tard, et une deuxième la seconde année. Donc la première c'est Shannon Yao, qui est une stripteaseuse qu'il rencontre dans le premier arc.
Avec l'air du corps.
Ouais, qui fait un peu tous les boulots.
Et qui veut devenir journaliste.
Voilà. Voilà.
On la met avec Spider Jérusalem, car quitte à apprendre, autant apprendre avec le meilleur.
C'est ça, puis personne ne veut y aller, surtout.
Une des rares à supporter son côté. Bien sûr.
Ouais.
Et puis la deuxième, donc, c'est Yelena Rossini.
Qui va prendre
le temps. La nièce de, ouais. De l'éditeur.
Non, c'est en fait, ça. Non. Elle est présentée comme ça, mais en fait, non.
Ouais. Ouais.
Les deux ont des personnalités vraiment différentes.
Complètement différentes, ouais.
Et n'apportent pas la même chose. Et justement, ce passage à l'année 2, le changement d'assistante joue beaucoup aussi.
Ouais, parce que malgré tout...
Elle est beaucoup plus effacée, et ce qui permet de plus centrer sur Spider, quoi.
Elle était assez présente, finalement, quand même, l'assistante dans la première année. Bah,
On avait quand même des histoires uniquement centrées sur elle, comme l'histoire, justement,
de
son petit ami qui se fait télécharger. C'est vraiment une histoire centrée sur elle.
Et du coup, la relation qu'il y avait avec Spider était différente aussi, parce que finalement, ça a humanisé, entre guillemets, Spider sur certains points.
Ah bah, il avait une... Vraiment, il l'aimait beaucoup, quoi. Ça se sent qu'il aime beaucoup, qu'il a envie de la protéger.
Bah, il dialogue, il lui parle déjà, ce qui est déjà une avancée par rapport à Yelena, puisque les premiers mois, il lui a quasiment pas parlé.
Hein. Oui, il se rappelait pas de son prénom.
Je pense pas que ce soit un amour, je pense que c'est plus une relation platonique entre les deux, quoi. En tout cas avec la première assistante. Et Yelena, en plus, c'est un jeu, hein, de pas se rappeler de son prénom.
Oui, c'est clair. Ah oui, bien sûr.
Parce qu'il écoute tout ce qu'elle dit.
Oui.
J'entends tout.
Non, mais oui, c'est clair. Mais c'est parce qu'il a compris chier, que c'est quoi. Pas du tout le même style de nana que Shannon, quoi.
Puis a-t-il de nouveau envie de s'attacher une assistante alors que la première est partie?
Voilà.
Ouais. Qu'elle est partie pour pour rentrer dans les ordres.
Oui, et puis surtout être la femme de...
Et quels ordres?
La femme de Greg du premier arc, en fait.
C'est ça. Ouais.
Donc, bon, ça dure pas longtemps, heureusement.
Ouais.
Sachant mais que alors... les relations sont vraiment différentes, c'est vrai, entre les deux, mais toutes les deux, il y a même un passage, je sais pas si dans le volume 2 ou dans le volume 3, puisque on peut le dire, Yelena s'envoie quand même Spider à un moment.
Après une bonne cuite, ouais.
Voilà.
Ouais. Et elle refuse d'admettre la vérité.
Et en fait, Shannon va quand même la lancer là-dessus pendant un moment, jusqu'à ce que Yelena lui demande, dis donc, t'as fantasmé combien de temps sur le concept de s'envoyer Spider?
Ouais, c'est clair. Et assez bizarrement, enfin... moi, donc, en tant que fille, peut-être que j'aurais pu
m'identifier, c'est mon
voilà, cas. Merci. M'identifier, j'ai vraiment trop de mal. M'identifier à une des deux. Et pas du tout. Enfin, vraiment, pour moi, l'identification a joué avec Spider, quoi. Même en tant que femme, finalement.
Donc, ah, moi, je me suis pas vraiment identifié à un personnage. C'est vraiment.
Je croyais que t'allais nous sortir que t'étais.
Oui,
à Shannon. Identifié à une des assistantes.
Ça aurait été difficile.
Non, mais après, chacun fait ce qu'il veut.
J'ai adoré les personnages et tout. Je les ai aimés tels qu'ils étaient, voilà.
Non, moi, c'est pareil, j'ai eu aucune identification envers Spider Jérusalem, à part peut-être le côté gueulard.
Ah bon? Ah, c'est bizarre, ça.
Alors là, je comprends
moi,
pas.
Je vois pas le rapport.
Ouais, ça m'étonne, ça.
Non, moi non plus. Là,
surtout le début avec la barbe et tout, je me suis pas dit, tiens, Steve, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans?
En plus, si tu regardes la première image, moi, quand j'ai vu Spider à poil avec sa barbe, moi, j'ai pensé à Warren Ellis.
Moi, j'ai plutôt pensé à Alan Moore, en fait.
Ouais, il y avait un peu de ça aussi. Ah, avec les tatouages. Ouais.
Le mec qui vit totalement en ermite, avec la vieille barbe, les cheveux longs, etc.
Mais si tu regardes aussi Warren Ellis,
c'est très Alan Moore, quoi.
Ouais, Warren Ellis, c'est un peu cette tête-là aussi. Ouais.
C'est Warren Ellis qui se transforme en Erskine ensuite. Voilà. C'est peut-être son rêve, peut-être c'était peut-être une déclaration, genre j'aimerais devenir toi, j'adore ce que tu fais.
Mais on lui a demandé à Gary, hein, à Gary Erskine.
Oui, en plus. Et non, c'est un hasard total, ouais. Selon lui. Hein. Mais ça le faisait bien rire en tout cas.
Mais il a dessiné un Spider Jérusalem il y a pas longtemps et justement il a oublié de mettre le tatouage de l'araignée sur le crâne, donc ça faisait encore plus vraiment l'impression qu'il s'était dessiné lui-même.
Sur le premier volume, quel est votre épisode préféré à vous?
Non mais déjà, tu poses pas les questions.
Pas de le faire. Je fais ce que je veux.
Steve, tu vas reposer la même question, s'il te plaît. Non,
moi, j'ai beaucoup aimé celui sur la télévision. Vraiment.
Ouais, celui sur la télévision aussi, je dirais, parce que c'était celui qui m'a fait le plus marrer, quoi, quand même.
Il y a toute la scène où je vois glisser.
Moi, c'est pareil, j'hésite entre les deux. Ouais.
C'est vraiment la religion. Parce que quand j'ai vu ça, putain, c'est ce que je pense.
C'est ce qu'on retient en même temps, parce que aller me nommer tous les épisodes à la suite là, de la première année, il y en a que j'ai vraiment oublié.
Il y a des réserves.
L'épisode sur la réserve était pas mal.
Ouais, c'était vraiment très bien. Mais moi, c'est vraiment la religion. Parce que je me suis dit vraiment à chaque page, mais c'est tellement évident que c'est ce que je pense.
Non, mais c'est pareil. Celui sur la religion, j'ai bien aimé aussi, mais...
Il est vraiment poilant en plus.
En fait, moi, celui sur la télévision, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté ingénieux de Darick Robertson de nous présenter toutes les chaînes sans forcément nous les montrer, simplement avec le regard de Spider, en fait. On le voit glisser dans son fauteuil.
Ah ouais, ça j'adore, ouais.
On le voit même plus pendant un
moment. Les Air Christ.
Les Air Jesus. Ouais.
les Air Jesus, moi, m'ont fait délirer.
C'est énorme. C'est vraiment... Et puis, appeler les talk shows et faire que la nana veut se suicider, enfin c'est des trucs vraiment, mais c'est énorme, je trouve, quoi. Tout le monde a eu envie de le faire.
Ouais, c'est marrant, mais en même temps, par exemple, surtout sur la religion, je me suis dit, bon, il brosse le lecteur dans le sens du poil, enfin je veux dire, tout le monde, tous les gens qui sont pas religieux, tu vois, pensent comme ça, enfin je veux dire,
C'est quand même prévu pour le marché américain au départ.
Ouais. Oui, d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand je te disais enfoncer des portes ouvertes et être un peu cliché.
Non, mais là, il y a aussi un énorme paradoxe avec cet épisode, notamment la fin. Je veux dire, il est dans cette convention des religions où il y a différentes religions, etc. Il est habillé en Jésus, enfin en ange, mais presque en Jésus. Et le mec défonce tout. C'est exactement comme la parabole où Jésus rentre dans l'église et vire tous les marchands, quoi. C'est exactement la même scène.
Mais de toute façon, Jésus était un original, quoi. De toute façon, on peut le dire.
Donc voilà, je veux dire, il critique les religions, mais finalement, il a une attitude très proche de la religion chrétienne. Donc c'est, encore une fois, le paradoxe Spider-Jérusalem, quoi. C'est vraiment le paradoxe sur pattes, le mec...
Mais je crois surtout, ce qu'il révolte, c'est que lui, sa cause, c'est vraiment la vérité. C'est la vérité à tout prix. Et t'as un paquet de religions qui te disent « Moi, je détiens la vérité. » Alors que c'est un gros paquet de mensonges enrobé dans « File-moi ton pognon. »
Oui, ou « Laisse-moi te baiser. »
Voilà.
Voilà, tu vois, dans ce que tu viens de dire, Sam, pour moi, c'est... j'ai déjà lu des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas, ça m'a pas, je me suis pas dit, ah, c'est génial, Warren Ellis a absolument raison, parce que il y en a déjà 36 000 avant lui qui ont eu cette réflexion, quoi.
Aussi poussé sa maison. Ouais.
Enfin, moi j'ai pas trouvé ça particulièrement poussé comme réflexion, quoi. Dire les religions nous manipulent, faites attention, c'est pas bien, voilà, soyez vigilants, ça peut vite dévier vers la secte ou je ne sais quoi, enfin tu vois, les croyances, il y en a aucune qui détient la vérité, machin, enfin tout ça c'est...
Ouais. Là encore, dans le comics, je suis pas sûr qu'on ait atteint un tel niveau de critique.
Bah, justement,
il y a eu surtout replaçons-nous dans le contexte, c'était il y a 15 ans.
Oui, non mais Preacher qui attaque, mais alors super fort la religion. Avec je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas l'élu ou je sais plus quoi là.
Uniquement la religion chrétienne.
Oui, là c'est aussi c'est les déviances. Enfin, je veux dire le mec qui te propose une trépanation pour que ça aille mieux. Enfin, c'est aussi ça te montre à quel point on va dans la connerie humaine quoi.
Preacher s'attaquait principalement à la religion la plus pratiquée entre guillemets quoi, ou en tout cas aux États-Unis.
Ouais, mais c'était fait avec. Enfin, je veux dire ça touchait à tout quoi.
Oui, mais c'est pas. Tu peux pas appliquer Preacher au principe bouddhiste, par exemple.
Non, mais d'accord. Mais je veux dire, ça en revient au même. Le message est le même, de toute façon.
Pas exactement. Si,
quand même.
Je suis pas vraiment d'accord, en fait, parce que. Faut bien se rendre compte qu'on est quand même dans une époque, depuis 15 ans, de l'ultra politiquement correct, où on n'a pas le droit de péter plus haut que son cul. On a déjà 150 associations sur le dos. Et là, il a vraiment un discours vraiment rentre dedans sur les religions. Religion qui est quand même le thème le plus chaud possible, parce que t'as le droit, grosso modo, de rien dire.
Ah, aux États-Unis, voilà. C'est vrai que...
Voilà, tu dis, attention, la religion, c'est pas bien. Là, tu prends 150 procès...
Depuis 15 ans, ça n'a fait qu'empirer, en plus.
Voilà, t'as vraiment le droit de rien dire.
C'est-à-dire qu'on a de moins en moins le droit de critiquer les choses... pour justement le côté libre arbitre de chacun nanani nanana et
enfin ça dépend en fait parce que dans les médias par exemple tu regardes des épisodes de South Park c'est pareil quoi ils vont
oui mais être là encore dedans. tu vas chercher dans le cross média là on parle uniquement des références comics en termes de comics je pense que Transmétropolitan a été plus loin que tout ce qui avait été fait avant
ouais.
Depuis, il y a eu d'autres choses. Quand tu regardes des choses comme The Boys ou voilà, où c'est relativement politiquement incorrect, voilà, là c'est clair qu'on pousse plus loin encore dans le gratuit. Ce qu'il y a, c'est que Transmétropolitan n'est pas gratuit dans la violence.
Oui, il y a un message derrière.
La seule violence gratuite, c'est les coups de pied dans les couilles que donne Spider Jérusalem à tous ceux qui croisent. C'est le seul truc gratuit. Gros, hein. Oui, bien sûr, mais. On n'a pas de l'extrême violence, en tout cas dans ces deux premiers tomes, je sais pas pour le reste de la série, mais on n'a pas des scènes de démembrement ou trucs comme ça.
Oh, il y a même une scène très gore, c'est quand il tape la tête du mec sur le...
Oui, mais le mec l'avait attaqué, c'est pas gratuit.
Ouais, non, mais d'accord.
C'est
oui.
pas de la violence gratuite, pire, le mec avait tenté de le tuer, donc il s'est défendu. Oui. C'est pas juste démembrer quelqu'un pour le plaisir de le démembrer. Alors, il y a quand même des choses crades. Quand tu regardes bien les pages, tu vois des mecs qui mangent des cadavres ou ce genre de choses. Mais c'est pas mis au premier plan, c'est pas le thème principal de la série. Là où Preacher avait quand même de la violence relativement gratuite. Mais c'est pas non plus un mal. Enfin, je veux dire, dans Preacher, il y a tout un tas d'explications, etc., qui font que dans la série, ça colle bien. Mais tu peux pas appliquer l'ambiance Preacher à transmettre. Enfin, je veux dire, c'est
bien sûr, ouais.
Mais, non, mais pour la violence dans les comics de Garth Ennis, je sais pas vraiment si on peut parler de violence gratuite. Parce qu'en général, il y a toujours un propos sur la violence. Voilà, c'est soit pour, je vais pas dire pour faire marrer, mais pour essayer
d'avoir du second degré. De toute façon, voilà. Preacher est bien plus délirant que transmettre.
Bah, je l'ai pas lu encore.
Alors moi je connais pas Preacher, mais je trouve que Transmet est quand même une société complètement délirante.
Il y a énormément d'humour dans Transmet qu'il n'y a pas forcément dans Preacher. Preacher est quand même relativement plus sérieux, je trouve.
Ne serait-ce que les références Ebola, Cola, des trucs comme ça. Enfin, ou le whisky qu'il boit tout le temps. Vous avez vu comment il s'appelle le whisky?
Oui. J'ai pas fait attention.
Élise.
Ouais.
Ah oui, le oui.
Donc voilà, enfin je veux dire, il y a plein de petits trucs. Enfin, si vraiment tu t'amuses à regarder, c'est là aussi, c'est parce que tu as dû les lire rapidement et tout, mais si vraiment tu prends le temps de regarder chaque image et tout, tu vas voir qu'il y a des références à plein de choses et c'est vraiment tordant quoi. Enfin,
il y a des trucs gore aussi, t'as ta longue paille.
Ouais.
La question où tu bouffes de la chair humaine.
Ah ouais, non, oui. C'est clair. Il y a
c'est des clones d'humains élevés sans cerveau en fait, juste avec le système moteur en fait, ce qui fait tourner les organes.
Ouais.
C'est doux. Pas d'intelligence, ouais, rien. Et ensuite, tu vends les organes, soit pour la bouffe, soit tu vends des filles, en fait.
N'est-ce pas ce que l'on fait déjà avec les poulets qu'on élève en batterie Voilà, quoi.
Bah là, c'est du humain, c'est quand même...
Bah oui, non, enfin, c'est juste l'évolution d'après, quoi.
Ouais.
Voilà, j'ai tué tout le monde.
Non, mais ouais.
Moi, je suis en train de me dire que tu mangerais bien une jambe, en fait.
Justement, ils en vendent dans ton...
Oui, ouais, c'est pour ça que je dis ça, ouais.
Ouais, mais en fait, ils vendent de tout dans la série. C'est ça qui est marrant niveau bouffe. Tu peux bouffer des, je crois, c'est des yeux de
caribou.
Des morceaux de phoque, des,
Et moi, c'est ça que j'adore.
C'est la liberté de la société décrite par Ellis.
C'est vraiment.
Se mange aussi, quoi.
C'est vraiment
tout
une
se mange et tout se baise. Malheureusement, voilà, quoi. Je veux dire, tu vois des devantures de, si on peut appeler ça des magasins, des sortes de sex shop ou de je ne sais quoi, où tu rentres et tu peux aller baiser des chiens.
Oui, ou alors les poupées pour se masturber pour les enfants, par exemple.
Oui.
Enfin, je veux dire, là, c'est pareil, on va dans des... Je veux dire, les enfants ont une sexualité, les enfants votent, les enfants fument, les enfants font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est vraiment une société décrite...
Sans limite.
Enfin, sans limite, exactement. Ouais.
Les poupées sextoy, c'était rue Sésame, il me semble.
C'est un peu ça,
ça ressemblait vachement, ouais.
Il y a Anthrax le chat aussi.
Oui, puis la brigade des chiens qui parle.
Voilà, oui. Ça choque. J'aime bien parce que Warren Ellis n'aime pas les chiens.
Et le chat
dans la première année, j'avais oublié. Ouais. Voilà, c'était ça le passage que j'ai oublié avec la brigade des chiens. Ouais.
Voilà. Donc Warren Ellis adore les chats mais déteste les chiens manifestement puisque le chien il l'a quand même castré. Et t'as des dessins récurrents sur la partie enlevée.
Et on a un super bulldog anglais justement.
Ouais. Voilà.
Puisque c'est le...
Ou la machine, la maker, la machine qui fabrique les trucs, qui se drogue. Une machine qui se drogue. Ouais. Enfin, c'est quand même...
Voilà. Ou le chat à deux têtes.
Ouais.
Le fameux chat qui devient l'animal de compagnie.
La chatte, d'ailleurs. Je crois que c'est une chatte.
Oui, c'est une chatte.
Ouais.
D'ailleurs, c'est Robertson qui l'a créé. Et quand Warren Ellis l'a vu, il lui a dit « On va en faire l'animal de compagnie de Spider, quoi. »
Ouais. C'est à l'image du perso, vraiment.
Non mais je suis d'accord pour dire qu'il y a plein de petits trucs marrons. C'est vrai qu'il y a plein de petits gags, petits machins disséminés. Mais au fait, limite, j'aurais préféré transmettre s'il n'y avait pas eu toutes ces pseudo-réflexions qui...
Ben non, c'est justement ce qui donne de la profondeur à la série.
Oui,
parce que sinon, ça serait juste un...
Mais moi, justement, je trouve pas ça profond, quoi. Tu vois, c'est ça le problème, quoi. Ce serait
juste un freak show, quoi. Sinon, voilà. Ce serait vraiment... on s'amuse à aller dans le plus loin possible, des trucs.
Voilà,
alors que là, il en profite d'être dans une société qui est complètement barrée. Et en même temps, il va dénoncer des choses qui, finalement, quand tu les regardes par rapport à aujourd'hui, il dénonce la même chose que ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui, mais dans une autre société. Enfin, moi, je trouve que c'est vachement bien fait. Enfin, bon, moi, j'aime beaucoup transmettre. Hein. Donc, voilà.
Mais ça, c'est abordé dans la seconde année, justement, puisque Spider est perçu par la ville comme un gros cinglé, en fait, hein. Vraiment l'image même du type qui va faire rire et on le voit en fait emmener toute une file de gens qu'est-ce qu'il va inventer encore et résultat il les emmène dans le quartier le plus pourri de la ville pour leur montrer un peu
pour leur faire prendre conscience à
5 mètres de chez eux
voilà
qu'il y a des gens qui ont des maladies qui les bouffent qui vivent dans une pauvreté extrême et que personne n'en a rien à foutre
oui d'ailleurs il me semble qu'il en fait, les États-Unis sont le seul, sont le dernier pays au monde où il y a encore voilà, ce type de maladie.
Oui, voilà. C'est, il y en avait partout dans les milieux, dans les pays dans du tiers-monde. Ça a été soigné depuis, sauf qu'il y a qu'en état, que dans les États-Unis où c'est revenu.
Ouais.
Ouais. D'ailleurs, la ville, là, on pourrait penser que c'est vraiment le centre névralgique de tout, quoi.
Ah mais oui, hein, c'est bien.
D'ailleurs, cette ville n'est pas vraiment nommée, mais bon, on imagine effectivement que c'est New York, parce qu'il y a une espèce de Central Park au centre.
Et oui, le nom Central Park.
Ça pourrait être n'importe quelle grosse capitale, quoi. C'est, ouais.
C'est la métropole,
comme étant la ville.
Oui, c'est un peu plus quoi, de tout. Et aussi, un truc qu'on n'a pas dit et qui est important, c'est qu'il n'y a pas de jour. Il n'y a plus de calendrier, quoi. Ils ont arrêté de compter.
Ouais. On sait pas dans quelle année on est, on sait pas vraiment, non. Voilà. Il y a par des contre, parties en fait de l'histoire qui ont disparu véritablement.
Mais par contre, on sait qu'il y a eu des choses, par exemple, on parle des réfugiés australiens, on parle de la guerre en France qu'il y a eu par rapport au langage du français, enfin, voilà, il y a, on a une
jolie petite critique qui n'est pas, malheureusement, qui n'est pas, injustifié.
Voilà. Notamment du premier ministre français, je sais pas pourquoi, mais moi, ça m'a rappelé quelqu'un.
Ouais, c'est clair, ouais.
Non mais le fait que les Français ne veulent pas perdre leur langage alors que tout le reste du monde parle anglais sauf les Français qui veulent garder leur français et,
Non mais personnellement je reste convaincu qu'on est génétiquement programmé pour massacrer cette langue. Donc,
c'est, non pas
c'est dans nos gènes, c'est comme ça, on peut rien y faire. Non mais ce que je voulais dire c'est expliqué en fait vraiment dans la série cette disparition de l'histoire. Puisque dans l'une des vignettes justement que je conseille de lire, ils expliquent qu'à un moment qu'il y a en fait des gigantesques sentinelles dans la ville qui servent en fait de système de sécurité. Et sauf que plus personne ne sait comment ça fonctionne. Ça fait 20 ans que grosso modo, ça, pour les gens, ça a toujours été là. C'est une espèce de truc en paysage. Ils savent plus du tout ce que c'est. Et ça renvoie en fait à la faillite complète du système éducatif américain à cette époque-là. Et t'as Spider justement qui dit à un moment j'ai fait un truc super choquant aujourd'hui, je me suis assis avec des enfants et je leur ai appris un truc.
Ouais.
Mais si tu regardes dans la série, il y a très très peu cette notion de famille. Vers la fin de l'année 2, on a cet épisode où il y a la mère qui fout la poupée de la gamine chez le prêteur sur gage afin de lui payer une opération pour qu'elle ne mange plus et que comme ça ils auront de nouveau de l'argent parce qu'ils s'en sortent plus au niveau des factures.
Oui, oui.
Mais sinon, à part cette histoire-là,
non, il n'y en a pas d'autre.
La famille, c'est vraiment un concept qui est totalement oublié dans cette société.
Mmh. Oui, parce que c'est vraiment chacun pour soi.
Mmh. Bah, une société de plus en plus individualisée comme celle qu'on a actuellement. Hein.
Oui.
Donc c'est vraiment la continuité quoi.
On a bien abordé la première année là. On peut peut-être passer à la deuxième si on veut finir un jour.
Moi je voulais juste dire que en fait le truc qu'il a réussi à faire Warren Ellis, c'est de décrire notre société actuelle un peu poussée à l'extrême il y a 15 ans.
Ouais.
Et on y arrive petit à petit.
Et on y arrive petit à petit à ce que lui il a imaginé il y a 15 ans.
Ouais. Je soupçonne que Warren Ellis devait pas forcément être toujours très net quand il écrit ça.
Non mais c'est en fait le truc c'est que Warren Ellis écrit énormément avec en fait il fait beaucoup de recherches et notamment dans les magazines un peu scientifiques, ce genre de trucs, ce qui fait qu'il se tient vachement au courant de toutes les avancées technologiques.
Il fait beaucoup de recherches dans des coffee shops aussi je pense.
Voilà oui, dans les bars surtout, plutôt dans les bars.
Même au niveau dessin, au niveau couleur, etc. C'est très tape à l'œil quoi. Mmh. Plus la première année que la deuxième, j'ai trouvé.
La deuxième année est beaucoup plus sombre.
Oui.
Mais ça va avec le thème de toute façon.
Oui, tout à fait. Mais c'est la première fois que j'ai ouvert le bouquin, je me suis dit waouh. Ils ont bien fumé avant quoi.
Ah mais ça te saute aux yeux quoi.
Telle une grosse ville la nuit, tu en prends plein les yeux.
Ouais.
C'est des lumières partout, des néons, des affiches, des pubs. C'est vraiment ça, quoi.
Ouais.
On va passer un petit peu à la deuxième année quand même, parce qu'on sait qu'on a principalement parlé de la première.
On va laisser Sam en parler, parce qu'il est le seul à avoir aimé.
Non, mais j'ai aussi aimé, hein. Mais
moi aussi, oui.
J'ai préféré la première.
Moi, c'est vraiment mon tome favori. Puisque là, en fait, on rentre dans l'année d'élection.
Bah dans le vif du sujet quand même.
Voilà, l'élection présidentielle, puisque effectivement la lutte contre le président ensuite va devenir le thème principal de la série jusqu'à la fin. Pardon ?
J'ai dit, on s'en doute pas du tout.
Voilà, non du tout.
On va éviter de trop spoiler quand même voilà. Les événements pour ceux qui n'auraient
mais
pas
disons que le, découvrir bah, si après. On parle de la deuxième journée, on peut dire qu'il y a un candidat qui est élu.
Oui, puisque l'élection a lieu à la fin de la deuxième année, et donc voilà, il y aura forcément un des deux candidats, que ce soit le Smiler ou la Bête.
Voilà, sachant que l'enjeu de l'élection, c'est de savoir qui va baiser le peuple.
Ouais.
Et donc en fait, l'élection a lieu entre la Bête, président depuis 8 ans, corrompu au possible.
Donc cette fameuse loi sur deux mandats consécutifs a été abolie apparemment.
Voilà.
Puisqu'il peut se représenter pour un troisième.
Ouais, il a même réussi à faire financer en fait sa à se financer sur ses fonds propres. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à la loi actuelle aux États-Unis, puisque la Cour suprême, en fait, il y avait une limitation sur les participations des entreprises au parti. Maintenant, il n'y a plus de limite du tout.
Ouais.
Aux États-Unis, aujourd'hui, une entreprise peut donner autant qu'elle veut à un parti.
C'est bien.
On est vraiment là-dedans.
Voilà. C'est magnifique.
Voilà. Ce qui donnait, jusque-là, quand même, par exemple, l'ancien vice-président Dick Cheney, qui était le président d'une compagnie privée, qui, bizarrement, a eu le plus gros contrat de l'histoire en Irak, assez bizarrement. C'était une coïncidence totale.
Total. Oui, vous voyez le mal partout.
Voilà, oui. Il n'y a pas du tout de conflit d'intérêt, mais bon. Voilà, mais quand on dit que vraiment la réalité a rattrapé le bouquin, on n'imagine pas à quel point.
Ouais.
Ça nous laisse sans voix.
Je constate ça.
Non, mais en gros, le choix, c'est entre un corrompu et un plus corrompu. Enfin, c'est vraiment...
C'est pas vraiment ça.
En fait, Spider interview la Bête à un moment, et vraiment, le mec le déteste. Hein. Il le déteste, mais par exemple, je crois qu'il y avait une remarque dans le tome 1 où il disait que le jour de l'élection de la Bête, il avait rendu une chronique de 8000 mots. Grosso modo, c'était putain, 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 répété 8000 fois.
Oui.
Le truc complètement stagné. Et la différence, c'est que en fait, Spider pensait que la Bête ne croyait à rien. Et le truc, c'est qu'il comprend que la Bête croit en des trucs. C'est juste pas les mêmes choses que lui. Et la différence avec le Sourire, c'est que le Sourire ne croit qu'à une chose, c'est qu'il est né pour être élu et faire chier le maximum de gens.
Ouais, c'est ça, le souci, c'est que on a d'un côté un gros enfoiré, la Bête, qui est ultra radicaliste, il n'y a que les plus forts qui peuvent survivre, et on élimine les faibles, c'est comme ça qu'il fait tout ce discours de
ça
campagne.
Ça, c'est plutôt l'avis de Heller, Jack Heller, c'est un
fasciste.
Ouais. Voilà, on le voit bien.
Oui.
Et puis, on a le Sourire, qui est vu comme grosso modo c'est démocrate et républicain de toute façon.
Oui.
La Bête c'est le républicain et le Sourire démocrate.
Mais est-il réellement démocrate quoi?
C'est quand même montré parce que
c'est qu'il pas une, c'est pas juste une carte de parti mais juste pour la façade quoi.
Mm. Ouais, mais enfin ça doit être comme ça que Warren Ellis les voit quoi. Les travers des deux poussés à l'extrême, ça donne ça. Et je dirais que le Sourire est quand même assez assez frappé quoi.
Ah mais il est complètement cinglé.
Plus que l'autre, c'est-à-dire que il y en a un qui est corrompu et l'autre qui est fou.
Ouais c'est ça. Lequel fait le plus peur finalement quoi. C'est un peu ça aussi quoi. C'est qu'il nous présente deux solutions qui sont aussi mauvaises l'une que l'autre quoi. Donc ça nous rappelle pas du tout.
Du tout.
Du tout, non. Du tout.
On va même pas le dire puisque les gens auront compris.
Pas du tout.
Du tout.
Mais Spider en vient à faire des choix puisque il va se prononcer plus pour un candidat que l'autre. Et il en vient à faire les mêmes choix que nous, c'est-à-dire prendre le moins pire.
Ouais. Et se dire est-ce que je me suis pas planté?
Si. Le truc c'est qu'il comprend, c'est bien fait à voir.
Et après tout. N'est-ce pas un juste retour de bâton par rapport à ce qu'il avait fait au départ?
Quand il avait piégé le Sourire?
Voilà.
Ouais.
Oui.
Donc il y a quand même un autre personnage important dans l'élection qui fait partie en fait du staff du Sourire, Vida Stevern.
Ouais.
Qui va assez vite en fait créer un lien avec Spider, ce qui va d'ailleurs lui poser quelques problèmes, puisqu'il est censé couvrir l'élection de manière impartiale et on voit assez clairement qu'il craque pour elle.
Oui. Comme elle craque pour lui d'ailleurs.
Oui.
Oui. Ça, justement, c'est la question que je me posais. Est-ce qu'elle craque pour lui ou est-ce qu'elle l'utilise?
Non, à mon avis...
Moi, je pense à mon avis, elle craque pour lui.
Ouais. Ouais. Attends, t'as vu tous ces tatouages? Elle ne peut que craquer.
Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a... L'attirance pour elle est... Je vais pas dire immédiate, mais dès qu'il comprend qu'elle aussi est, je dirais, passionnée par la vérité, qu'elle veut faire barrage à la bête, ça le...
Et puis,
ça
il a touché plus
profond. Ça le moustille, ouais.
Quand même. Voilà. Donc, voilà, il en peut, il en peut plus.
Voilà. Parce que depuis qu'il en a monté, il a
4 ans que...
Il a pas tiré un coup.
Voilà, okay. Oui, donc,
Il
y a un peu tendu
dans la première saison, dans le ouais. Gamin, il demande à plusieurs nanas.
Dès qu'il peut.
Ça, c'est voilà. C'est,
je suis asexuée, je ouais. Suis gay, je suis morte.
Et c'est même si tu lui donnes, mais genre 10 raisons pour non, tu vois.
Voilà. Je peux pas, je suis gay,
je suis morte, mariée, atteinte de cette maladie inconnue.
Et aussi lesbienne, donc non, ça va pas être possible.
Cliniquement morte.
Donc oui, mais c'est vrai qu'avec, avec Vita, non, c'est pas, justement. C'est pas ça.
C'est quasiment la seule personne à qui il parle poliment. Ce qui est très étrange.
Bah, t'as l'impression qu'il y a quand même un certain respect avec elle, contrairement à beaucoup de personnes où la plupart des gens ne les respectent pas.
Mmh. Bah, il en est simplement amoureux et du coup, il est plus lui-même, quoi. Il devient tout mielleux, quoi. En gros.
C'est ça.
Il est sous le charme.
C'est ça.
Donc, il perd toute personnalité, tout sens critique. Et d'ailleurs, comme disait Sam, peut-être même qui va à l'encontre de ses enfin qui serait prêt à aller à l'encontre de ses convictions pour elle, quoi.
Bah, il va à la limite hein, quand même. Puisqu'il fait un compliment sur la campagne du sourire sur Vita et par là même apporte un soutien très limite au sourire alors qu'il sait que c'est un gros pourri.
Je pense pas qu'il le sache encore à l'époque.
Bah, il s'en doute puisque comme il avait donné le sourire, il sait comment il perçoit les habitants de la ville.
Le gros basculement se fait à partir du moment du choix du vice-président. Mmh. C'est là qu'il y a vraiment le gros basculement dans la campagne électorale.
Puisqu'il enquête sur le mec, puisque dès qu'il le voit, il se dit mais c'est qui ce type? Et il comprend tout de suite que c'est en fait une top de Heller. C'est ça sa monnaie d'échange pour avoir son soutien lors de la conférence du parti de l'opposition pour avoir ses représentants.
Pendant toute cette année-là, on voit Spider qui décide de manipuler l'opinion pour essayer de faire bouger les choses. Et en fait, au final, il se rend compte plus ou moins que lui-même fait partie de cette machinerie et où il est lui-même manipulé. Enfin, c'est vraiment, on joue énormément sur la manipulation des masses et la manipulation des gens dans toute cette année-là.
Je crois qu'il s'en rend compte, puisqu'il y a des monologues intérieurs assez fréquents. Où, grosso modo, au début, il dit « J'ai bien joué mon rôle, j'ai fait ma petite pute, tout le monde a bien ri, ça y est. » Voilà, c'est ce qu'il dit, « J'ai fait ma pute. »
Oui, mais justement, mais des fois, enfin, je trouve que les choses intéressantes dans cette année-là, c'est que des fois, il est conscient de ce qu'il a fait, et il pense l'avoir fait en se disant « je l'ai fait consciemment, justement, et finalement, les résultats, ça va donner autre chose, hein, parce que en fait, il a été le utilisé manipulé. Par quelqu'un, quoi. Donc c'est jusqu'où est-il manipulé et jusqu'où manipule-t-il les gens, finalement.
En tout cas, avec cette année 2, la série prend un virage beaucoup plus sombre.
Oui.
Même au niveau des dessins. Et peut-être que cela correspond aussi avec une autre ligne éditoriale, puisqu'à partir de l'année 2, ça a changé et on est passé chez Vertigo. Alors, est-ce que ça a un lien ou pas, je sais pas, mais voilà, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte aussi.
Je sais pas parce qu'il plaçait le sourire déjà dans l'année 1, donc
il le plaçait dans l'année 1, c'est sûr.
Et la bête, il y avait une rencontre mémorable dans les chiottes dans l'année 1.
Oui, bah oui. Oui.
Dans l'année 2, de toute façon, c'est qui comme artiste
C'est Derek Robertson, avec beaucoup plus de...
Il y a de Rodney Ramos.
De Rodney Ramos, oui, son encreur. On sent de toute façon qu'il y a des épisodes où c'est beaucoup plus...
Ouais. Parce que, de toute façon, il lui fait des dessins bien moins fournis dans l'année 2 que dans l'année 1. Quand tu regardes, c'est bien plus dépouillé.
D'ailleurs, si tu regardes sur les crédits à chaque épisode, avant, tu voyais marqué Derek Robertson Penciler, et il y a certains épisodes où tu vois écrit Derek Robertson Penciler / Layout. Donc, il a juste fait un petit gribouillage, et puis c'est Rodney Ramos qui a fini, quoi.
Exactement, ouais. Donc là, c'est assez flagrant.
Qui a fini, qui a même dessiné, en fait.
C'est moins travaillé, quoi. C'est moins travaillé d'un point de vue graphique que la première saison, enfin la première année quoi.
Mais en même temps, ça correspond aussi avec le thème beaucoup plus centré. Autant dans la première saison, ça part un peu dans tous les sens, que dans cette deuxième année, c'est beaucoup plus centré sur la campagne présidentielle, c'est plus centré sur Spider Jérusalem, et donc les dessins sont plus minimalistes parce que qu'est-ce qui est intéressant, Spider Jérusalem et ses relations.
Il y a moins de thèmes quoi.
On te montre moins le monde autour. Pour que justement tu te concentres sur le thème principal de cette deuxième année.
Ouais, ouais. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même, ça ralentit, mais néanmoins, tu te dis, en fait, moi au début, je me suis dit, tiens, enfin, il va se passer des choses, quoi. Enfin, il va se passer des choses. Il va y avoir un petit peu d'action, quoi. Et puis finalement, non. Finalement, c'est quand même assez long, quoi.
Moi, j'ai pas trouvé, parce qu'il fait rebondir son intrigue de manière.
Il y a des coups de théâtre, mais il y a quand même des longueurs, quoi, dans cette deuxième partie.
Mais je crois, c'est fait exprès, hein, je pense. C'est vraiment fait exprès pour essayer de développer un peu ce que Elise veut démontrer, c'est tout.
Moi, ce qui m'a dérangé dans cette année 2, c'est cette écriture en arc de 2x6, alors qu'on était vraiment habitué à des stand-alone, quoi.
Oui. Et du coup, ça m'a un peu dérangé aussi.
Voilà, ça amplifie ce côté de longué, quoi.
Ouais. Mais,
alors, moi, je l'ai pas ressenti parce que justement, je l'ai lu en Big Book, alors je pense que vous l'avez lu en VO.
Ouais.
Comme je l'ai lu en Big Book, pour moi, je me suis enfilé les 12 épisodes d'un trait. Donc évidemment l'effet arc en 6 parties, moi je l'ai pas ressenti.
Mais enfin, nous on l'a lu en TPB, donc ça revient au même quoi. Mais
ouais, mais c'est découpé. C'était des petits TPB de 6 parties.
Oui, enfin des deux arcs. Quoi.
Oui. Voilà. Ouais, alors que voilà, là où tu book, fermes c'est vraiment.
Là, oui, moi je les ai lus. Moi tu sais, je les ai lus d'affilée les 12 et.
Moi pas, j'ai
même
pas pu.
Même en TPB et enfin. C'est vrai que ça m'a paru long. En fait, ça m'a surtout paru long le démarrage hein, avec l'histoire de sa femme qui est volée, tout ça.
C'était la fin de l'année 1. Et d'ailleurs, pour moi, c'est la plus mauvaise histoire.
Et ouais,
de ce qu'on
voilà.
A pu
moi,
lire.
Ça, cette histoire-là m'a, enfin, ça m'a pas du tout.
C'est un arc en 3 et ça tire vraiment en longueur et ça sent le meublage. Quoi.
Ouais.
Je sais pas ça.
C'est dans celui-là où il tabasse un type.
Oui, c'est dans celui-ci où il est attaqué. Ouais. Voilà, ça commence bien, puis après.
Exactement, j'ai eu cette impression, je me suis dit tiens là ça bouge, il va y avoir de l'action et puis après
c'est là où il y a
le fameux arc où il y a les chiens qui parlent.
Oui c'est voilà ça, c'est ouais. Ça. Mais fait, je pense que ça aurait pu être fait en deux quoi au lieu d'être en trois.
À partir de là, c'est vrai que ça prend des longueurs quoi.
Mais comme j'ai dit, en fait la lecture en Big Book atténue beaucoup les longueurs. On les ressent beaucoup moins.
Bah, que tu lises en Big Book ou en single, ça change pas. Tant que t'as pas besoin d'attendre entre les deux, ça change pas grand chose. Après c'est juste est-ce que tu vas les lire d'affilée ou non quoi.
Oui, mais moi je les ai lus d'affilée.
C'est surtout ça, est-ce que t'as le temps de lire 12 épisodes d'affilée, est-ce que t'es pas obligé de te couper parce qu'il faut que t'ailles bosser, parce que t'as déjà.
Ah ben en fait moi j'ai eu des vols parce que je les ai achetés au moment des vacances de Noël.
Le mec il prend des congés pour les retransmettre quoi.
Non mais c'était pendant mes congés de Noël en fait. Voilà. Bizarrement au moment de Noël, je sais pas pourquoi j'achète des trucs que j'achète pas durant l'année. C'est très bizarre. Donc résultat, dès que j'ai lu le 1, je me suis précipité sur le 2. Effectivement, moi, j'ai quasiment eu l'impression de lire toute la série d'un trait, donc ça a été très rapide pour moi.
Mmh. T'aurais pu faire pire, hein, t'aurais pu acheter le 4 directement après le 1.
Oui, c'est vrai. <aussi, ça. rire>
Essayer de combler les trous toi-même.
Voilà.
Tu te dessines, tu écris et tu dessines toi-même le tome 2. Bien, on va faire un dernier petit tour de table, puisqu'on a vraiment parlé d'un petit peu tout. Bah, on va commencer par Claire, tiens.
Mmh.
Alors, transmettre ton avis, est-ce que c'est une série à lire? Est-ce que tu vas lire la suite? Qu'est-ce que t'en as pensé? Une petite conclusion, quoi.
Alors, transmettre, hein, série à lire, très très bonne série. Moi, ça fait partie des séries que j'ai préférées jusqu'à présent, que j'avais déjà lues un peu avant. Et ça fait partie, enfin voilà, pour moi, c'est une très bonne série avec plein de choses dedans. C'est tout à fait le type de lecture que j'attends dans le comics. Hein.
Bien. Voilà. Donc, t'encourages les gens à l'acheter.
Non, pas du tout.
Tu as un discours à la Spider Jérusalem.
Franchement, alors là, tu suis pas, hein, Steve.
T'as un discours à la Spider Jérusalem. C'est exactement. Vachement bien, mais ne l'achetez pas.
Moi aussi, j'aime faire des tatouages partout comme ça.
Ah, c'est moi. C'est ça, le...
Non, mais ça, c'est
les gens le détestent.
Ça, on me déteste déjà, donc. Je suis sur la bonne voie, là.
Et toi, Nono?
Ben, moi, je dirais oui. Carrément, c'est un truc qu'à lire. Par contre, vu que c'est quand même un univers assez barré, essayez de vous procurer un numéro de la première année dans un comic shop.
Il le propose si
parce que c'est tu serais vraiment dans l'univers de Transmet.
Oui.
Hein.
Oui.
S'il donnait ça à lire dans les coffee shops, ce serait pas étonnant. Hein.
Non mais procurez-vous un numéro standalone dans un comic shop pour vous faire une idée avant d'investir dans un TPB, surtout que vous pouvez en trouver, je pense, à pas trop cher en single, vu que c'est assez vieux comme série.
C'est difficile à trouver.
À mon avis, oui, ça doit pas être facile à trouver.
Vaut mieux se le procurer en TPB ou directement l'acheter les big books. Là, si vous voulez vous faire plaisir. Voilà.
Faites-vous une idée avant, c'est quand même
de le commander.
Oui.
Voilà. Essayez de vous procurer un numéro ou de regarder une preview, je sais pas s'il y a des sites qui proposent des previews, des choses comme ça pour vous faire une idée. Et si vous aimez ce style, le style Warren Ellis qu'on a pu déjà retrouver dans d'autres romans graphiques, allez-y, jetez-vous dessus, parce que c'est quand même très sympa à lire.
D'accord. Benny.
Ouais, alors moi justement, je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi j'ai pas aimé. En fait, tout l'univers fictionnel avec les espèces de monstres, les extraterrestres, enfin les mutants, tout ce qu'on veut, là, qui mangent des humains, etc. Tout ça, ça me fait marrer. Tout ça, je suis assez client. Le truc, c'est que ça ne plaira pas aux gens qui, comme moi, partent du principe que lorsqu'ils vont lire un comics ou lorsqu'ils vont mater une série ou regarder un film, passent un contrat fictif avec l'auteur en se disant, voilà, pendant une heure et demie, je veux oublier toutes les merdes que j'ai vécues durant ma journée et oublier ce que je viens d'entendre à la télé et je veux vraiment rêver, parler d'autre chose, quoi. Enfin, qu'on parle d'autre chose. Et là, le coup de lire une série qui, au fait, avec toute une réflexion sur la société d'aujourd'hui et sur tous ses travers, fait que, justement, j'arrive pas à m'évader, quoi, tu vois, puisqu'on me reparle de ce que je viens de... de ce pourquoi je viens de fermer ma télé, de fermer mes journaux, etc. Et ça ne me détend pas de lire ça, quoi, tu vois. Et c'est le type typique de série. Ça peut s'adapter aussi aux séries télé, aux films, etc. Le type de divertissement qui va me faire chier parce que finalement c'est trop réaliste. Enfin, c'est trop réaliste. C'est pas réaliste, mais je veux dire, il y a une réflexion.
C'est trop proche.
Ça décrit trop la société.
Oui, bah, exactement. Ouais. Et ça me rebute. Et je sais qu'il y a des gens comme ça qui préfèrent vraiment que ce soit complètement, je sais pas. Enfin, par exemple, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'adore les comics de super-héros parce qu'il y a
oui,
pas.
Oui, non, mais
tout,
c'est on, ça. En fait, on est vraiment, on est l'opposé en fait, Benny. Moi, je m'y retrouve pas du tout dans les trucs de super-héros, machin, tout ça. Moi, ce que j'attends, c'est justement de la réflexion, quelque chose d'un peu plus. Voilà.
Mais enfin, cela dit, par contre, dans The Unwritten, ça me convient. Tu vois, ça, il y a pas.
Oui, enfin, The Unwritten n'est pas réaliste, quoi, n'est pas une critique.
Oui,
de
voilà,
la société,
non, mais c'est non. Ça, voilà, il y a pas ce côté-là, tu vois. Donc ça, par contre, je vais aimer et toi aussi. Enfin, tu vois, je veux dire, ça, c'est un truc qu'on aimera tous les deux. Mais Fable aussi, quoi, par exemple. Et puis, je dirais juste un dernier truc, c'est que par exemple, il y a quelque temps un épisode de Spider-Man où l'un des personnages principaux. Non, mais c'est
bizarre. Bon, on parle de Spider-Man. Oui, hein. Franchement,
est-ce que je jure qu'il va réussir à faire un podcast sans citer Spider-Man?
Mais justement, parce que c'est comme d'habitude, je suis super fan de Spider-Man. Là, c'est un épisode où il y avait l'un des personnages principaux qui se retrouvait en Irak, et finalement, c'est une espèce de critique de la guerre en Irak, etc. Et ça m'a fait prodigieusement chier parce que j'avais envie de lire autre chose, quoi, qu'on parle d'extraterrestres, de trucs totalement.
Alors que moi, j'avais adoré cet épisode.
Voilà. De choses vraiment qui me permettent de m'évader de la du quotidien qui est assez déprimant, quoi. L'actualité, etc., quoi.
Sauf petit chou.
Et je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui recherchent ça dans la science-fiction et voilà.
Oui, mais non, pas
science-fiction. Non.
Science-fiction, non.
La science-fiction, non.
La science-fiction est toujours un reflet.
Exactement.
De la société à un moment donné d'une
Non mais enfin vous voyez ce que je veux dire, par exemple l'essentiel des comics qu'on lit, c'est pas on critique pas tellement la société dans laquelle enfin pas plus que ça, quoi.
Ça dépend des épisodes.
Ouais, mais enfin franchement par exemple quand tu lis des comics, enfin je peux t'en citer plein, quand je lis au 100 Bullets, j'ai pas l'impression non plus qu'on me parle
Mais normal, c'est un polar.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, bah, voilà. Donc, il y a du, enfin, voilà, il y a les polars, il y a les comics de super-héros. Bien souvent, il y a des références, mais je veux dire, c'est léger, quoi. Là, c'est vraiment totalement ça, quoi. C'est vraiment des réflexions de Warren Ellis sur la société, sur ses dérives.
Je sais pas si tu te rappelles la mini-série qu'on avait chroniquée de Warren Ellis, Ocean, qui était sortie chez Wildstar.
Ouais. Ouais.
C'était aussi
oui.
de la science-fiction pure, mais c'était oui. aussi une grosse critique
oui.
de la société mass-média actuelle.
Oui, ouais.
Des JT guerrières en général.
Une critique un peu... De toute façon, j'avais pas tellement accroché à Ocean, mais bon...
Moi, j'avais beaucoup aimé.
Ouais, c'était ouais. vachement bien.
Ah bon
t'avais oui.
je me rappelais même plus que t'avais tellement accroché. Non, moi, j'avais été un peu déçu.
Non, mais la fin était expédiée, mais...
le propos était génial.
Mais bon, enfin voilà. Et c'est pour ça qu'une série comme DMZ, je suis pas sûr que ça me plaise. Et
une série comme Ex Machina non plus, je pense.
Et par exemple, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je n'ai pas aimé Why is the Last Man.
Peut-être.
Parce que il y a tout un, comment dire, un côté politique. Et puis c'est quand même une grosse aussi critique de la société. Hein.
Bien sûr.
Voilà. Donc ça me saoule quoi. J'ai vraiment envie de changer d'air en fait.
Bunny n'aime pas réfléchir, donc.
Voilà. Mais ça, on le savait déjà.
Te taquine, Bunny, c'est pour te taquiner.
Non,
mais je pense que, à mon avis, tu représentes quand même une bonne partie de lecteurs aussi, oui. hein, parce que c'est clair, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, donc.
Une bonne partie des lecteurs, je sais pas, mais une partie des lecteurs, oui, ça, c'est sûr.
C'est-à-dire que, je mélange pas les deux, quoi. C'est-à-dire, pour moi, il y a d'un côté, je sais pas, enfin, si j'ai envie de réfléchir, tu vois, je vais lire je trouve même plus le mot.
Un essai
sur tel ou tel sujet ou un bouquin même sur tel ou tel problème. Mais je veux dire, je veux pas de ça dans mes comics. Par
alors donc, que moi, ça veut dire que tu souhaites que les comics n'évoluent pas pour différents publics et que tu souhaites qu'ils restent un média plus pour enfants entre guillemets.
Mais non, mais pour moi, enfin je veux dire, c'est, moi ça va pas me plaire. Après que tout le monde est libre de lire des comics qui parlent de ce que vous voulez quoi. Moi je les lirai pas, c'est tout. Enfin je veux dire c'est...
On est en train de le faire tourner en bourrique. Ah ouais, le lapin il va s'appeler bourrique.
Pour rebondir un peu sur ce que dit Bunny, je dirais que c'est un vieux débat dans les comics. Est-ce que on suit les évolutions de la société, est-ce qu'on critique un peu ou est-ce qu'on reste un peu dans notre bulle? Voilà un truc
quel joli van Sam. On reste dans notre bulle. Pour des comics.
Ah oui. J'avais même pas vu.
C'est même pas cette propre blague.
Non, mais il est sérieux, ça, là.
C'était pas censé être une blague. Donc c'est vrai que c'est un vieux débat. Est-ce qu'on fait un comic intemporel ou lié à la société du moment?
Mais en fait, les comics, je précise, sont toujours influencés par la société du moment. Tu regardes Civil War, tu regardes Dark Reign, etc. C'est influencé par la société du moment. Mais il n'y a pas, c'est pas à ce point. Enfin là, c'est vraiment un pamphlet sur les dérives de la société à travers la religion. Ben,
est-ce que c'est pas plus agréable de lire un pamphlet sur les dérives de la société avec sous forme de comics que sous forme d'un bouquin de 30 pages ou 40 pages?
Justement, voilà. C'est ce que je ne recherche pas ça. Quand je lis un comics, c'est justement pour changer d'air. Et si je voulais entendre parler des dérives de la société, je lirais un pamphlet. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ben moi, les pamphlets écrits, je ne supporte pas ça. Je veux dire les trucs que.
Non mais c'est un exemple. Mais je veux dire.
Non mais je sais. Mais c'est pour te dire que il y a des clients. Il y a des clients aussi pour ça. Et là, bon, enfin, voilà. Autour de la table, on a plus apprécié, donc on comprend ton point de vue, mais laisse-nous lire et réfléchir sur des bouquins comme
mais
ça.
Je crois que c'est peut-être une question d'âge.
J'ai jamais dit que ça devrait être interdit.
Mais non, parce qu'on a le même âge.
Je me demande si c'est pas une...
Donc,
dans la tête, ça m'étonnerait.
Il y a du bâche.
Non, je déconne.
En même temps...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Il adore Spider-Man, donc...
Voilà. Non mais il a le droit, moi aussi j'ai aimé Spider-Man pendant très longtemps, mais ce que je veux dire c'est que il y a des années moi aussi j'adorais les super-héros, et plus je vieillis, plus j'ai l'impression d'en avoir fait le tour, et moins j'ai envie de lire autre chose quoi. Parce que j'ai l'impression d'avoir un peu tout lu.
Les super-héros, je cite les super-héros mais c'est un exemple, mais je peux te citer Walking Dead, 100 Bullets, Fable, etc. Tout ça.
Mais je peux dire aussi que...
J'adore. Pour moi ce n'est pas pareil.
Hors comics, si c'est pour me taper un film sur la misère sociale en Alsace.
Ouais, un drame à la française, quoi.
Moi, maintenant, voilà, je suis un drame familial. Non, là, je vais me tirer une balle.
Entièrement d'accord avec ça.
C'est clair.
C'est voilà. Pareil. Tu vois, quand je paye ma place de cinéma, c'est pour qu'on m'en mette plein les yeux. J'ai pas envie de voir quatre personnes entre quatre murs dans une salle pendant 2 heures.
C'est un spectacle. Mais quand je veux lire un comics, moi, je veux lire de tout. Que ce soit du bon vieux super-héros bourrin, bien gore comme Invincible, ou une critique sociale, que ce soit dans Transmet ou même dans DMZ. Donc ça me dérangera pas.
Non mais je ouais. D'accord.
Voilà, c'est une affaire de goût en termes de lecture.
Exactement, c'est une affaire de goût et c'est vrai que c'est... Enfin voilà, il y a personne qui a tort et qui a raison, c'est juste une question de goût, donc voilà, je vous explique pourquoi moi j'ai pas accroché à Transmet.
Et ton avis du coup, Sam ?
Oh, mon dieu, vous l'avez pas encore compris ?
Non.
Achetez-la. Et d'ailleurs, le commentaire pour présenter le podcast, ça serait achetez la série. Sinon, je ne sais rien, ça sera vaudou avec votre tête dessus pour vous forcer à lire.
Mais ils vont pas d'ailleurs en ressortir là pour en anglais, hein, je veux dire. Ils ont pas prévu de ressortir quelque chose là sur Transmet.
Ah, si, ils ont ressorti.
Ouais.
Pour les 10 ans.
10 ans.
Ouais, il me semble, hein. Ouais.
C'est un projet, en cours. C'est un
ouais.
cours.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait.
Ça sera juste un épisode spécial.
Ouais, parce que j'ai vu des auteurs qui parlaient, qui bossaient là-dessus. Donc,
en ce qui me concerne, c'est vraiment l'une de mes séries, mais préférées, et ça le restera.
J'approuve. En fait, je me rends compte que plus je lis des comics, et plus je suis d'accord avec Sam, généralement. Non, mais c'est vrai.
Que ce soit très bon.
Mais Claire pense-t-elle vraiment comme une fille ?
Oui.
Et que Claire pensera-t-elle du run de Morrison sur les X-Men ?
Ah oui, alors là, j'ai hâte d'y arriver.
Réponse un jour, peut-être, si elle a le courage.
Un jour.
Bien, bien, j'espère que vous avez pu découvrir une série que vous ne connaissiez pas, peut-être.
Et Steve, ton avis ?
Ah oui, mon avis,
J'allais oublier. Non, on s'en fout.
On s'en fout, Steve, il est juste là pour dire bonjour, au revoir.
Je trouve que c'est une très très bonne série, une très bonne critique sociale, arrangée avec les comics politiques dont on a cité quelques noms, comme DMZ, comme Ex Machina, ce genre de choses. Spider-Man. Il y a quelques épisodes de Spider-Man qui sont des critiques politiques, quand même. Mais bon, c'est pas le sujet du débat. Bref, c'est une très bonne série, à réserver donc cependant à un public qui a envie de lire des choses comme ça et donc qui ne cherche pas qu'à s'évader. Et c'est pas du tout une critique envers Bunny. Hein.
Ou si vous voulez apprendre de nouvelles insultes, parce que moi j'ai beaucoup appris.
Alors, il y a des trucs très drôles. Par exemple, je peux citer quand même une réplique qui m'a fait mourir de rire, c'est il dit à un moment j'étais énervé comme un bâtard le jour de la fête des pères. Ça m'a fait marrer, quoi. Non, mais voilà, il y a de très bonnes répliques, ouais, par contre, dans Transmet.
Cependant, la lecture VO est vraiment à réserver à un public ultra averti.
Ouais.
Parce que c'est incompréhensible pour qui a un petit niveau d'anglais. Je veux pas être méchant, mais...
Petit, oui.
C'est de l'argot, c'est des insultes, c'est pas des trucs qu'on entend.
C'est clair.
Je sais pas, parce que personnellement, j'en ai lu quelques-uns en VO et ça m'a pas... Mais je suis très mauvais juge, là, maintenant.
Ouais, mais
je
oui, voilà.
Tout mais puis, lire, ou pas.
Et puis maintenant, tu as l'habitude aussi de t'y mettre. Voilà,
ah, mais ça fait 10 ans, moi, que je lis des trucs en VO.
Bah oui, voilà. Donc, non, c'est vraiment. Faut vraiment le sentir, hein.
Un simple niveau scolaire ne suffira pas, il faut être honnête.
Pas du tout. Donc, surtout que tout passe par les mots. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent par les mots. Donc,
pour un journaliste, c'est quand même mieux, quoi. Pour un journaliste
de presse. Si vous loupez la moitié du truc, vous n'allez pas trouver ça bien, forcément.
En fait, quand il écrit, quand c'est les passages de écrit, tu vois, l'espèce d'extrait, là, de ces textes, ça encore, ça va. Mais c'est d'ailleurs, vraiment dans le langage parlé, quoi, dans le dialogue.
D'ailleurs, venir journaliste, qu'est-ce que tu en penses ?
Mais je sais pas, moi je suis pas gonzo journaliste non plus.
Non,
c'est
mais
vraiment, c'est vraiment particulier.
Qui est dans un autre registre, qu'est-ce que tu en penses ?
Ben, moi, enfin franchement, pour moi, si on pouvait faire un parallèle, ce serait le magazine Vice, voilà, que je citais en antenne tout à l'heure. Ce serait vraiment un magazine qui collerait bien à Spider Jérusalem. C'est un truc totalement déjanté, et c'est vraiment du gonzo journalisme actuel, quoi, en fait. Enfin actuel. Je veux dire, oui, parce que ça, oui, actuel.
Ok.
Donc, je vais juste finir ma conclusion, si possible. moi, je conseille cette série, effectivement, un peu comme tout le monde. lisez-la. Par contre, cependant, attendez-vous à un gros changement entre la saison 1 et la saison 2. Si vous voulez juste lire des histoires sur un futur possible, etc., arrêtez-vous au premier tome. Si ensuite vous voulez vous lancer vraiment dans une grosse intrigue, bah, attaquez la saison 2, quoi.
J'ai peut-être préféré la suite, alors. S'il y a une intrigue plus...
Bah, l'intrigue, bah oui, tu l'as lu, oui, là, la saison 2, l'intrigue du président.
Enfin, je veux dire la suite de la série, la suite de la saison 2, quoi. Les futures saisons, si ça reste là-dessus...
Oui, ça reste sur la politique, hein. Pas mal. C'est une ligne rouge qui continue sur toute la série et qui, en fait, va affecter vraiment Spider... et sa vie, vraiment, parce qu'à un moment, il est... Bon, je vais pas le dire.
Non.
Ne spoil pas.
Ne dis rien.
On en reparlera, de toute façon, on fera dans un futur relativement...
Pas trop
proche,
long, ouais.
Proche,
pas,
lointain.
Pas trop dystopique non plus.
la ça, c'est pas nous qui allons choisir, malheureusement.
Pour le prochain enregistrement, Nono, t'auras tes... comment s'appelle
R-Jesus,
ouais.
R-Jesus.
Si tu trouves comment commander une paire, tu me le dis, hein, on fera peut-être une commande groupée. J'en veux une paire aussi.
C'est clair.
Donc merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pu découvrir une série que vous ne connaissiez peut-être pas. On vous encourage tous à au moins y jeter un œil. Faites-vous votre avis. Et puis venez nous parler aussi si vous connaissiez déjà Transmettre, si vous aimez ou si vous n'aimez pas aussi, venez nous dire pourquoi.
Voilà. Que j'inscrive vos noms sur ma liste.
Bunny se sentira moins seul.
Voilà. Venez soutenir Bunny.
Le Bunny-ton.
Tout seul.
Ça m'a pas. Comme je dis souvent, ça m'a pas transcendé.
Donc, Bunny, premier nom sur ma liste.
Après la liste de lecture, la fameuse liste de Sam, voici la deuxième liste, la blacklist cette fois-ci.
Je suis en train de regarder vite fait, les TPB sont trouvables pour une dizaine d'euros sur le net en VO.
Je crois qu'il y en a une dizaine en tout.
Ouais, il y a 10 volumes, oui.
Mais comme je dis, attention à la VO pour les gens
qui... Ah oui, en français, c'est en 6.
C'est en 6 big books qui font environ 30 euros.
Et puis si Panini a...
Qui sont sortis en plus cher.
Panini a délayé la soupe, hein, a découpé les deux dernières années en 3 tomes de manière à vendre un peu plus.
Oui, mais ça fait quand même... Mais ça aurait été difficile de mettre en 5 volumes en mettant justement les épisodes spéciaux que je citais au début. Parce que là, ça aurait fait des tomes de 350-400 pages facilement.
Le pire, c'est que la première édition du premier volume coûtait 24 et qu'elle est ressortie à plus. Elle est ressortie, je crois, à 28 ou 29.
Oui, parce que l'inflation, ma bonne dame, l'inflation.
Ah, je suis pas certain en plus qu'ils aient changé le papier sur les produits.
Si, parce que moi, je les ai achetés comme ça. Ouais, ils ont refait le papier. C'est le papier qu'on trouve dans les éditions de luxe. Donc.
D'accord.
Donc vraiment merci parce que le papier sur les premières éditions était horrible.
C'est pour ça que ça paraît moins épais.
Oui, je pense, oui.
D'accord.
Parce que c'est du papier plus fin, vraiment pas rugueux comme on avait avant. C'était dégueulasse à la lecture, donc.
Le papier big book, quoi.
Voilà. Mmh. Papier chiotte.
Ouais, enfin, qui coûtait quand même déjà 23 euros. Hein.
Mmh.
Ça fait cher le papier chiotte. Bref,
on va terminer. 12 épisodes hein, quand même. 12 épisodes.
Ouais, 12 épisodes, ouais.
23 euros 12 épisodes au rapport qualité-prix relativement agréable.
Ouais.
Donc, on se retrouve bientôt pour un prochain spécial et puis encore plus bientôt pour des podcasts réguliers. Ça ne veut rien dire, mais c'est normal.
C'est normal, c'est la fin de la soirée. Là. On est tous
crevés. Ouais, tout ça.
Ouais, et puis moi j'ai faim.
Et mal aux dents.
Et d'autres ont mal au dos.
Voilà.
Bien, à très bientôt et plein de comics.
Oui, bonjour.
Oui.
Vous voulez pas dire au revoir?
Ah si, au revoir tous.
Non, mais c'est que la phrase était plein de comics. Enfin, je sais pas, c'était bizarre.
Continuez à nous aimer.
Voilà.
Et continuez à nous le dire, on aime ça.
Oui. Sauf moi. Moi j'aime bien qu'on me déteste comme Spider.
Mais par contre, arrêtez d'encourager Bunny dans les blagues.
Oui, ça oui. Vraiment, faut arrêter.
Continuez, c'est très bien. Si vous avez aimé Transmettre, sauf si vous avez aimé Transmettre, voilà.
À bientôt tout le monde.
À bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Ciao.